ton nom, gros poussin?
Le blanc, c'est son nom et c'est juste son prénom.
I'm Spartacus.
Je suis Buzz l'éclair.
The name's Bond, James Bond.
J'en ai une carotte, sacré palimo!
C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
J'en vois que tu parles comme ça, ouais!
Good morning, Vietnam!
J'appelle ça la France, mademoiselle.
Mais non, madame, je vous jure que j'ai jamais envie de sortir avec un garçon.
Ok!
C'est le nom.
Atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère?
J'aime me beurrer la biscotte.
Et maintenant?
Maintenant quoi? J'appelle deux experts complètement défoncés au crack qui vont travailler nos deux copains.
La grande émission, Jean-Jacques Bernard, Olivier Pain.
Et oui, bonsoir et bienvenue. C'est un grand plaisir que de vous retrouver, je le disais tout à l'heure, sur radio.festival-lumière.org. Ça, c'est l'adresse internet où vous pouvez écouter la radio et même la voir d'ailleurs, puisque grâce aux équipes de Global qui sont là avec tout leur matériel, des petites caméras haute définition, eh bien, vous pouvez nous suivre en vidéo, en image. C'est l'audio également que vous retrouvez en podcast parce que tous les jours, vous avez plein de rendez-vous tout au long de la journée. Ça commence à 10h30 jusqu'à 20h. Il y a beaucoup de correspondants qui participent à cette émission. Ils sont un peu partout dans le Grand Lyon pour toutes les séances auxquelles ils assistent. Ils interviewent des artistes sur place, ils font des réactions puisqu'on vous fait vivre ce festival de l'intérieur. Alors eux, eh bien, vous pouvez podcaster les rendez-vous si vous n'avez pas le temps de les écouter dans la journée, puisqu'il y a une possibilité sur la même page, donc radio.festival-lumière.org. C'est un sous-site internet du Festival Lumière. La vidéo est donc diffusée également sur la chaîne YouTube où vous pouvez revoir l'émission le lendemain de sa diffusion en vidéo et en images. Et puis vous pouvez tweeter en direct pour vos réactions si vous avez envie de nous envoyer des petits messages. Hashtag Lumière 2014 et @radiolumière. Vous avez possibilité de nous envoyer tout ce que vous voulez. Flora veille au grain, elle nous donnera les messages lorsqu'ils arriveront. Tout ça en direct pendant l'émission. Et puis la page Facebook de Radio Lumière avec les photos des invités, parce qu'on a une petite tradition. J'ai avec moi un petit jetable et je fais quelques photos avant que les invités s'en aillent lorsqu'ils sont surpris en train de signer cette magnifique affiche lumière qui commence déjà à avoir un bon nombre de signatures. Hein. Regardez, vous n'arrivez peut-être pas à lire, c'est un peu loin. Mais pourquoi il y a autant de monde ce soir? Je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites, mesdames, messieurs? Faut partir, faut pas rester. Hein. Il va y avoir des gens importants qui vont venir ici, donc il faut pas rester là. D'accord, c'est pas grave. Je m'appelle Olivier Pain, je suis le joyeux de riz de l'émission. Il y a des gens beaucoup plus sérieux pour parler cinéma autour de moi. Par exemple, Jean-Jacques Bernard.
Vous êtes Pimpin, oui, c'est ça?
Ouais, ça m'arrive de temps en temps.
Voilà, ben moi je suis là, je suis pas le sérieux du tout de l'office. C'est vous le sérieux et c'est moi le clown.
D'accord.
On va jouer comme ça.
Formidable, Jean-Jacques, ça me plaît bien comme ça. Yves Bongarçon, comment ça va?
Eh bien, bonne soirée.
Très bonne soirée.
Oui, oui.
Vous êtes en forme?
Belle rencontre avec Michael Cimino dans la matinée.
Ah là là là
avec
là.
Avec ma comparse. Marie-Noël Dana.
Génial.
Que vous avez oublié de présenter en premier pourtant encore ce soir.
Pourtant votre... Ah oui, c'est vrai ça. Et à chaque soir, je lui fais le coup. Ah bah, je promis demain. Ah non, demain, il n'y a pas. C'est pas grave.
Ne jamais promettre ce qu'on n'est pas sûr de tenir.
Exactement, Marie-Noël. Je retiendrai la leçon pour les prochains jours.
C'est parce que vous êtes à droite et vous êtes plutôt un homme de gauche, apparemment.
N'importe quoi. Alors... dites-moi, Yvon Garçon.
J'ai désarçonné un animateur
pas
de radio.
Du tout. À part Michael Cimino, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui?
Plein de choses.
C'est vrai. C'est intéressant.
Oui, oui.
Bon, très bien. On a parlé d'insertion tout à l'heure. On a reçu une déléguée de la région Rhône-Alpes qui est venue nous parler d'insertion, parce qu'il y a 30 bénévoles qui sont en situation d'insertion linguistique, qui travaillent. On les voit pas parce qu'ils sont fondus dans les 450 autres, mais ils sont là et ils font un gros boulot. Marie-Noël Dana, comment ça va?
J'étais pas prête du coup là.
Non. Faut toujours être prêt avec moi, faut être sur le coup, hein, sans arrêt. Comment allez-vous?
Ça va super bien, Olivier Pain, et vous, comment ça va?
Ah, moi ça va. Alors,
quand
vraiment,
il
franchement.
De meubler, il est bon. Hein.
Ça va très très bien. Ouais, je suis un meuble, moi, c'est ce qu'on dit. Même si j'ai perdu 20 kilos. Dites donc, vous parlez un peu anglais, vous non?
Un tout petit peu.
Alors, figurez-vous que ça tombe bien, parce que nous, pas trop. Enfin, à Paris, bon garçon. Mais nous, on parle pas couramment comme vous.
Non.
Donc ça tombe bien parce que tout à l'heure, il y a Keanu Reeves qui va venir, ça va peut-être nous arranger.
Qui ça?
Keanu Reeves.
Ah.
C'est un jeune acteur qui débute.
D'accord.
Voilà.
Je ferai de mon mieux.
Eh ben, c'est gentil, je compte sur vous, attention. Hein,
pas
surtout
que
vous avez des questions pertinentes à poser.
Ne pas me mettre la pression.
Non, pas de problème.
Très mauvais la pression pour moi.
Pas de problème.
Ok.
Eh bien voilà, Antoine Cyr, vous êtes le dernier ce soir.
Antoine Cyr, des variétés, non, c'est
mais
ça.
Mais parce qu'on garde le meilleur pour la fin.
Ah, ça c'est gentil. Hein,
ah, ça
un peu.
C'est très très gentil.
Moi je
ça.
Tacle, elle savonne.
Oui, oui, mais ça va très bien. Regardez, je frétille.
Bon, ça tombe bien. Vous nous avez préparé deux, trois petits trucs.
J'ai préparé deux, trois petits trucs et en même temps, je
me promène, je m'insinue dans les allées du festival où on trouve parfois des films vraiment rares. Ouais. J'ai vu des Aida Lupino qui sont vraiment des films très très difficiles à voir. Mm-hmm. Il y en a un que j'ai vu hier qui est Never Fear, personne l'a vu. Très très peu de gens l'a vu. Pierre Rissian l'avait vu évidemment, mais à part lui, très peu de gens l'avaient vu. Et puis ce matin, Bertrand Tavernier en a présenté un autre qui est Not Wanted et qui est un très très beau film. Ça mérite vraiment de ressortir ces films. C'est vraiment bien qu'on les voit. Et alors ce soir, je vais voir un truc à 21h, donc quand on aura terminé notre travail collectif, qui est une véritable rareté, qui est un film qui, mais apparemment extraordinaire, mm-hmm. qui est un film espagnol qui s'appelle El extraño viaje et qui est un L'étrange voyage et qui fait partie des quelques films que des gens comme Almodovar ont vu pendant la période franquiste, ouais. et où ils se sont dit tiens, voilà quand même des cinéastes qui arrivent à contourner la censure du franquisme. Il y avait comme ça les films de Berlanga, il y avait comme ça les films de Bardem, le père du Bardem actuel, et puis donc il y a ce film El extraño viaje, qui alors là un film impossible à voir en dehors du Festival Lumière, hein, ouais. et qui est un film très très marquant de cette période franquiste où des cinéastes arrivaient par des astuces de scénario. Alors Buñuel lui avait trouvé une astuce qui était d'aller au Mexique, mais les autres ils étaient en Espagne, et donc par des astuces de scénario ils arrivaient à contourner la censure franquiste et à faire des films qui étaient assez violents en
jusqu'à
fait,
Carlos Saura, il y a encore exactement, pas très très longtemps exactement. Dans les années 70
tout à fait
qui continuait à faire des films malgré tout, tout en essayant de dire la réalité du pays.
Je dis ça parce que oui. Almodovar va arriver bientôt, hein, puisque demain soir, demain. Il y a un grand hommage à Almodovar, demain. Donc on se met un peu dans l'ambiance. Et la nourriture intellectuelle d'Almodovar dans sa jeunesse, ça a été ces films-là, et puis ça a été les films américains, parce que Plan Marshall oblige, il y avait un accès aux films américains qui était important. Un accès assez large, assez fait. Important, y compris pour des films qui, vus par la censure franquiste, étaient un petit peu olé olé.
Et même certains Français traversaient la frontière pour aller en Espagne voir des films que le Plan Marshall permettait de voir là-bas, alors qu'on les voyait pas en France.
Exactement.
Super, j'ai failli partir aux toilettes moi, pendant que vous parliez, parce que quand on vous entend
merci.
Tous les deux, franchement,
quel puits de science.
Oh, c'est impressionnant.
Je suis
Yvon Garçon,
je suis admiratif.
On est bien d'accord.
Absolument.
Donc, je crois qu'ils sont en train de se moquer un peu
lumière.
De nous, Jean-Jacques.
Pas du tout, absolument pas, au contraire. Non, moi j'ai respect total pour des gens qui savent autant de choses que vous savez, et principalement dans votre domaine, vous êtes imprenable.
Moi j'ai donc, assisté à un truc assez marrant tout à l'heure. J'ai été faire la présentation d'une présentation. C'est un peu comme les frères Ripollin, on se peint chacun dans le dos l'un de l'autre, etc. Oui, parce que maintenant, la grande mode va être, vous allez voir, dans les salles de cinéma, des présentations enregistrées préalablement, mais avant le film,
oui.
Puisque aujourd'hui, avec le numérique, une salle de cinéma, ce n'est jamais qu'un grand écran de télévision, simplement où plusieurs personnes sont devant. Mais effectivement, on enregistre de plus en plus de présentations de films, et c'est ce qu'on a fait pour l'AFCAE. Alors j'ai présenté Monsieur Klein, on a enregistré ça dans un vrai studio de cinéma, dans une vraie condition de cinéma, avec, s'il vous plaît, dans la présentation, des extraits de Lina, où on voit par exemple Alain Delon... qui dit que c'est lui qui a produit, et c'est vrai, le Monsieur Klein de Joseph Losey. Et toutes ces choses-là permettent d'installer en 5 minutes le film et de donner un peu des poignées à la marmite pour ceux qui auraient peur de se brûler en voyant des films à cru. Si
j'ose. Alors justement, dans les présentations qu'on a vues, il y a eu par exemple, hier, Bertrand Tavernier qui est venu commencer à parler ouais. de son futur film sur le cinéma français. Et à un moment, il a raconté une anecdote qui est vraiment une anecdote précieuse, je trouve. Moi, je la connaissais pas. Vous la connaissez peut-être, Jean-Jacques. Mais c'est que pour Gabin, il y avait deux sortes de réalisateurs. Il y avait ceux qu'il appelait les metteurs. Il disait celui-là, c'est un metteur. Ça voulait dire évidemment metteur en scène, mais dans le laconisme de Gabin, un metteur.
Il pouvait mettre des quantités de choses.
Voilà, c'était et donc. Et alors, par exemple, il aimait bien Grangier, qui lui était un peu inféodé de toute façon, mais qui était effectivement quelqu'un qui avait un sens de la mise en scène, qui savait filmer une ambiance de bistrot, etc. Et donc, il disait Grangier, c'est un metteur. Et puis à côté de ça, il y en avait un qu'il aimait pas beaucoup. Par exemple, c'était Kayat, qui trouvait trop rationnel, trop juriste, et il disait Kayat, c'est pas un metteur, c'est un juriste cadreur.
Ah, c'est très drôle. Ça, je savais pas. Ça. Bravo.
Mais une
c'est
chose vrai que vous saviez pas, ça, c'est pas possible.
Non,
ça,
mais non. Il est vrai que Kayat est un ancien avocat.
Oui, bien sûr. D'accord.
Alors, évidemment, c'est aussi pour ça qu'il se moquait de lui.
Messieurs, je vous propose de faire une petite pause, comme c'est de tradition à la radio, et on se retrouve juste après pour parler avec Marie-Noël Dana de Michel Legrand, musicien. illustre et qui fait partie de ce festival. On fait une courte pause et on se retrouve juste après.
Radio Lumière. Lumière, allume la radio.
Le Festival Lumière 2014 à sa radio, sur Lyon 1ère 90.2 et sur radio.festival-lumière.org. C'est également retransmis en direct sur Séance Radio, la web radio 100% cinéma de BNP Paribas. Marie-Noël Dana, on a envie de parler musique. Quand on a envie de parler musique au cinéma, on ne peut pas passer à côté de Michel Legrand, c'est pas possible.
Non, et Michel Legrand, c'est pas seulement une longue, longue histoire avec la musique, c'est un homme qui parle d'amour depuis le début de sa carrière.
Ouais.
Et étant donné que moi, il n'y a que l'amour qui m'intéresse sur Terre, eh bien, j'ai parlé d'amour à Michel Legrand.
Donc vous êtes dans votre élément, en
totalement.
Fait, c'est ça. Voilà, d'accord. Bon, vous allez nous laisser vivre ça comme il faut. Alors.
Absolument.
Allons-y.
Vous vous êtes marié après 50 ans. Avec Macha Merrill tout récemment. Et ce que je me demandais, c'est si c'était l'amour de la musique qui vous gardait jeune et beau ou si c'était la musique de l'amour.
Les deux. C'est la musique de l'amour, c'est l'amour d'abord. Et puis c'est la musique en même temps parce que la musique, c'est une variation de la vie qui ne vieillit pas. La musique, elle reste intemporelle, comme on essaye d'être nous-mêmes. Voilà.
Vous vous dirigez toujours vers l'avenir. C'est pour ça que vous ne gardez rien. Vous n'avez rien gardé de votre œuvre.
Rien. Je ne veux rien garder. Il n'y a rien derrière moi. J'ai l'impression que je voudrais garder l'impression que je n'ai encore rien fait et qu'il me reste tout à faire.
Cette année, alors vous êtes toujours très très occupé, on le sait, et ça n'a jamais ralenti, mais cette année, vous avez monté au Théâtre du Châtelet les Parapluies de Cherbourg avec une mise en scène tout à fait nouvelle et adorable. Et c'était formidable, que vous avez dirigé vous-même tous les soirs.
Tous les soirs.
Et comment ça s'est mis en place et qu'est-ce que ça a représenté pour vous?
Écoutez, c'est formidable parce qu'on entend tout. Les chanteurs, les chanteuses, très bien. Et pour la première fois, on entend l'orchestre parce que le mixage du film, comme je disais pendant la projection, est tellement lamentable. On n'entend rien, ni les voix, ni la musique, ni l'orchestre, ni rien. Parce que là, sur scène, avec un bon orchestre, c'était magnifique. Et des chanteurs formidables. Nathalie, son mari, Vincent Niclot, Marie, la petite qui jouait Geneviève, qui est formidable, la petite jeune.
Est-ce que ça s'est mis en place? Est-ce que cette idée vous est venue quand vous avez collaboré avec Nathalie Dessay l'année dernière déjà? Ou comment
oui,
ça vous est venu?
Oui, c'est en travaillant parce qu'on chantait avec, on chantait le duo en scène avec Nathalie tous les deux, des parapluies, non, je t'aime, tout ça, etc. Puis on s'est dit, ce serait formidable de le faire en scène, toute l'œuvre, avec tous les personnages principaux, quoi. Ils ont été formidables, ils ont été courageux. Vous vous rendez compte d'apprendre par cœur une partition pareille, quel travail! Ils sont merveilleux.
C'était absolument magnifique. Vous avez redécouvert des choses, il y a une surprise aujourd'hui pendant cette masterclass. Ce film complètement plat, auquel on a rajouté votre musique qui avait pourtant été balayée.
C'est drôle, hein? C'était formidable ça. Tout à coup, j'aurais voulu que ma musique soit sur ce film. Elle aurait aidé le film à être moins sec, moins impersonnel, moins poisson mort, quoi. Le metteur en scène est un horrible type. Si on lâche ta musique, on regarde plus mon film. Ben, je dis tant mieux. Ben, c'est un con, quoi. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'a aucune audace, rien, il tremble, il fait. Alors on ne peut rien faire avec des gens comme ça.
Vous avez aujourd'hui signé plusieurs films qui restent dans l'inconscient collectif de plusieurs générations. Les films que vous avez faits avec Jacques Demy, qui touchent tous les enfants et qui touchent leurs parents et leurs grands-parents. Vous parliez d'un...
50 ans après, les enfants tout à coup s'emparent de ces partitions.
C'est fou cette intemporalité dont vous parliez au début de cette interview. Ma fille de 9 ans chante toutes vos chansons et regarde les films en boucle. Comment vous expliquez ça?
Je sais pas. C'est pas moi qui suis en avance. Je crois que ce sont les gens qui sont un peu en retard. Alors aujourd'hui, ma musique et les musiques de films et les films et tout ça font un tabac incroyable. Parce que je vais vous dire que quand les parapluies sont sortis, ça a été un grand succès. Mais Mademoiselle de Rochefort, ça n'a pas été un succès quand c'est sorti. Ni Podane. Ça a été des demi-succès, quoi.
Mais quand vous dites que vous n'étiez pas en avance, c'est la modestie qui parle. C'est-à-dire que pour créer ce genre de film et ce genre de partition et ce genre de collaboration dans les années où vous avez créé ça, si, vous aviez un immense temps d'avance.
On n'est pas en avance. Moi, je vis mon époque tout à fait, complètement, quoi. Mais 50, 40, 50 ans plus tard, tout à coup, tout le monde s'en empare. C'est extraordinaire ce qui m'arrive, c'est incroyable.
Je veux juste vous demander ce que vous avez comme projet, là, étant donné que, c'est-à-dire, vous faites votre lune de miel à Lyon, ce qui est très joli. Et vous allez faire quoi, la fin 2014 et puis en 2015? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà décidées?
J'ai beaucoup de projets au cinéma que je vais réaliser moi-même avec Macha. J'ai beaucoup de projets aussi au théâtre que je vais réaliser avec Macha, qu'on va faire ensemble. J'ai des concerts, des tas de concerts à faire. Il faut que j'invente un nouveau disque qu'on va faire avec Nathalie Dessay. Il faut que je trouve une vraie formule nouvelle. Je ne vais pas refaire ce qu'on a déjà fait. Je vais faire changer. Je vais faire un disque avec tous les chanteurs français et canadiens français de mes œuvres. On va faire à New York bientôt. Je fais un nouveau disque de jazz. J'avais fait un disque de jazz en 1958 qui s'appelait Le Grand Jazz. Et je vais en faire un au début de l'année prochaine qui s'appelle Le Grand Jazz Volume 2. Je vais faire un disque avec Vincent Niclot, chanteur, de mes chansons. Donc, je m'occupe de moi comme un fou.
Et ce film, vous allez réaliser un film?
Deux.
Deux films?
J'en ai déjà fait deux. J'en ai fait un en 90 qui s'appelle 5 jours en juin. C'est une aventure qui m'est arrivée le jour du débarquement américain. Et j'ai fait un deuxième film avec Rudolf Nureyev sur la danse. Oui, que personne n'a vu parce que les gens
ne regardent. Je vous promets que je vais réparer ça.
Oui, oui, voilà.
Merci beaucoup, Michel Legrand.
Et une très belle interview de Michel Legrand parmi Henri Noël Nadar. Dana, on a l'impression que vous avez passé un bon moment.
Et moi, je suis une immense fan de Monsieur Legrand, une immense fan de tout le travail qu'il a fait avec Jacques Demy. Et c'est vrai que voir les parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet il y a quelques semaines, ça a été un immense moment de magie parce que l'orchestre et puis Nathalie Dessay et puis les décors de Sampé qui sont complètement désuets et charmants et en même temps ça reste hyper moderne. Et donc c'était super léger et magnifique. On a tous fini en larmes avec une standing ovation. Ma môme était debout sur son siège en train d'hurler. Enfin, c'est, ouais, j'ai beaucoup d'amour pour les films de Jacques Demy et Michel Legrand. Et d'ailleurs, il y a un coffret absolument magnifique qui sort là avec tous les CD, toutes les bandes originales de Michel Legrand dans les films de Jacques Demy. Et parallèlement, il y a aussi un coffret de DVD et un très beau livre sur Michel Legrand. Tout ça, ça sort en même temps. C'est une très belle année, je trouve, pour ce monsieur. Ah, et puis le fait qu'il ait trouvé l'amour comme ça.
Ah oui, c'est très beau.
Ça me...
En tout cas, c'est une belle idée, l'association Michel Legrand et Sampé. Je trouve qu'ils participent de la même légèreté, du côté aérien et en même temps extrêmement poétique des choses. C'est une belle, belle, belle idée.
Et puis cette ironie mordante qu'ils ont avec beaucoup de gentillesse quand même, c'est fou.
Et à propos d'ironie, Marie-Noël, bravo pour votre interview, parce qu'il contenait parfois des moments d'ironie de Legrand sur certains cinéastes assez bien sentis. Je n'ai pas entendu souvent dans sa bouche, parce que c'est plutôt un homme qui édulcore les choses et arrange les choses, plutôt qu'il ne les fixe dans la réalité. Or là, il a lâché les vannes grâce à vous.
Excusez-moi, j'aimerais que tout le monde se rende compte là, tout de suite, immédiatement, que je viens d'être adoubé par Jean-Jacques. Et quand même, ça n'arrive pas tous les jours et ça fait 4 ans que j'attends ça. Et donc là, voilà, je peux arrêter, là, et je voilà. Fais parce que...
Je pense qu'on peut applaudir.
On applaudit.
Si on demandait à tout notre public d'applaudir aussi, parce que vous êtes là, mais on vous entend pas. Alors il faudrait qu'on vous entende un petit peu, on fait de la radio. Non, attendez, on va la refaire. Parce que là, ça c'est pas bien du tout. Je vous mets une très mauvaise note. J'ai demandé au public ici présent, qui est nombreux ce soir, je ne sais pas pourquoi, on va le savoir dans quelques instants, d'applaudir très très fort le plateau de Radio Lumière. Voilà, c'est un peu mieux. Je dirais peut mieux faire, mais c'est quand même pas mal. On va passer d'autres très très bons moments, parce que nous avons un très très beau plateau, une très belle émission en préparation, et donc, voilà. Il vient de s'asseoir à côté de moi, il s'appelle Jean-François Giré. On va vous donner un micro tout de suite, il est là, vous allez le prendre.
Ah bien.
Comme ça, vous allez pouvoir bouger avec.
Parfait.
Jean-François Giré, vous êtes un monteur pour le cinéma de documentaire à l'origine.
Cinéma, long métrage et documentaire, oui.
Voilà, et vous êtes un passionné de western, mais pas tous les westerns européens.
Ah, écoutez, je préciserai que je ne fais pas partie des intégristes du western italien, parce que parfois vous avez des individus qui ne
jurent que par le western italien et d'autres qui ne jurent que par le western américain. Moi, mes premiers amours, c'était évidemment le western américain. Et malgré ma passion pour le western italien, je n'ai jamais quitté les plaines filmées par Anthony Mann, Raoul Walsh ou John Ford.
Est-ce que vous êtes comme Sergio Leone, vous détestez le terme de western spaghetti?
Tout à fait. Je le trouve péjoratif, ridicule. Et en plus, ça vient des Yankees. Alors, c'est pas une référence.
Antoine Cyr.
Alors, votre bouquin, c'est « Il était une fois le western européen ». Oui. Autant dire tout de suite que c'est une véritable mine. Hein, c'est le genre de livre qu'on a envie d'emmener sur une île déserte et de ne pas être dérangé pendant une bonne quinzaine de jours.
Oui,
vous avez dû quand même en baver des ronds de chapeau pour l'écrire. Bravo.
C'est une sorte de livre Madeleine qui permet de retourner dans le temps, dans ces époques florissantes du cinéma européen.
Très, très bien. Alors, il y a évidemment tous les films du western européen qui nous ont fait rêver, mais il y a des films oubliés. C'est un des grands plaisirs de ce livre, c'est qu'il est extrêmement exhaustif. Par exemple, il y a eu des westerns français. Il ne faut pas oublier qu'il y a par exemple Le Juge avec Perret et Hossein de Giraud.
Nous avons aussi les deux films réalisés par Robert Hossein, avec Robert Hossein comédien. Il y a le deuxième film de Robert Hossein avec Robert Hossein et Michel Mercier, hein, qui a quitté les beaux costumes d'Angélique pour se retrouver dans un costume de veuve et pleurer.
Il y a eu aussi des westerns allemands. J'en ai trouvé un par exemple qui s'appelle Apache, race sanglante.
Oui.
Qui a l'air d'une
très allemand,
qui est allemand,
quoi. Très allemand.
Non, mais c'est une histoire les Indiens sont quand même gentils apparemment dans ce film là ils ont
alors
été,
c'est comme le se titre vengent, quoi. Oui, alors ce qui est intéressant, ce que j'ai dégoté moi, c'est, je l'ai découvert en écrivant ce livre, c'est que de l'autre côté du rideau de fer, on faisait aussi des westerns. On tournait des westerns. Il y avait les westerns d'Allemagne de l'Ouest, mais les westerns d'Allemagne de l'Est, avec une vision idéologique totalement différente,
imaginez. Voilà. Mais grâce en partie, je pense, à Karl May, qui est un des grands auteurs du western, et qui était un Allemand.
Voilà, et en Allemagne de l'Est, c'était évidemment aussi les Indiens qui étaient les héros de cette saga. Et il y avait une vision très idéologique. Effectivement, les méchants, c'était les Blancs, les Yankees, l'armée américaine et les pionniers, évidemment, qui étaient les vilains exploiteurs des pauvres Indiens.
J'ai repéré aussi Requiescat, qui est Tue et fait à prière, qui est un western de Carlo Lizzani, Pier Paolo Pasolini, qui joue le rôle d'un prêtre qui dirige des guérilleros mexicains.
Exactement. Et vous Pasolini, avez comme héros principal Lou Castel, qui était lui-même engagé politiquement à l'époque. Oui.
Alors, vous, pour faire ce livre, Il était une fois le western européen, Jean-François Giraud, vous avez regardé tous les films, évidemment, pour bien vous documenter.
Écoutez, tous... à l'époque, moi j'ai commencé, le travail a duré 7 ans, j'ai commencé en 92, le film est sorti en 2002, et malheureusement à l'époque, nous n'avions pas les beaux DVD aujourd'hui avec des belles couleurs, donc j'avais des dizaines de correspondants sur les quatre coins de la planète qui m'envoyaient leur VHS. Alors parfois, je découvrais des films en allemand, en espagnol, en japonais, enfin c'était assez curieux, c'était un travail titanesque. C'était un peu difficile parce que les copies n'étaient pas toujours dans des qualités suffisamment belles pour pouvoir apprécier les films à leur juste valeur. Ça a été ça mon vrai problème.
Et alors, il paraît que vous avez eu accès à des copies pas tout à fait conventionnelles, des copies un peu plus complètes. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ça c'est vrai. Par exemple, je suis tombé sur des copies beaucoup plus complètes, comme par exemple le film que je viens de présenter tout à l'heure, le film de Sergio Solima, Colorado, qui en France était sorti malheureusement... avait perdu 20 minutes pour arriver dans les salles françaises, et moi j'avais eu la chance d'avoir un correspondant italien qui avait pu me fournir une copie complète, et le film prenait une autre dimension, effectivement.
Alors hier soir vous avez présenté Django, Trinità et les autres, qui est un film documentaire que vous avez réalisé avec la participation très étroite de monsieur Jean-Jacques Bernard, que tout le monde connaît évidemment.
Et oui, en effet,
il faut le remercier gracieusement, parce que grâce à lui ce film existe. Sinon ça aurait été très difficile actuellement sur les chaînes de télévision de pouvoir imposer ce genre de documentaire sur le cinéma.
Yvon Garçon, vous vouliez dire un truc très important.
Parmi cette liste assez exhaustive de western et de films que vous avez exhumés, etc., franchement, il y a combien de nanars, de vrais nanars?
Il y en a beaucoup.
Voilà.
Il y a des titres incroyables, par exemple. On sent le nanar. Par exemple, il y a La Horde des Salopards.
Oui, vous alors, avez aussi Sartana, si ton bras gauche te gêne, coupe-le. Vous voyez, des choses comme ça. Alors, parfois, vous aviez parfois vous aviez des films beaucoup plus poétiques du côté italien, et c'est la traduction en France qui parfois était absolument aberrante. Hein. Il y a vraiment des films qui méritaient mieux que ça, et les titres usagés en France n'arrangeaient pas les films. Oui.
Alors, ce documentaire, quand même, j'aimerais bien qu'on y revienne, parce qu'il a été présenté hier, il sera présenté encore dimanche dans le cadre du festival. Racontez-nous un petit peu l'essence de ce documentaire.
Ce documentaire, c'est Il était une fois, c'est moi qui ai replongé dans mon passé en utilisant les petits cahiers que je remplissais à l'époque, dans lesquels je collais des affiches, des photos, etc. Et je me suis servi de cette idée de réalisation pour revisiter cette histoire du western italien.
Non seulement ça, Jean-François, mais avec ses petits cahiers d'écolier et son écriture d'écolier dans ses cahiers sur ces films-là que tu avais pratiqué, cette collection quand tu étais môme, tu es allé voir les protagonistes que tu admirais le plus.
J'avais très envie depuis très longtemps d'aller retrouver ceux qui étaient survivants de cette grande aventure du western italien. Et c'est vrai que je me suis présenté à eux avec ces cahiers, et tout de suite il y a eu un déclic chez eux et ils se sont livrés.
Le livre est préfacé d'ailleurs par Franco Nero.
Oui.
Et vous l'avez rencontré, vous le connaissiez avant ou pas ?
Non, pas du tout. Il avait préfacé le livre sans me rencontrer. Oui.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Oui, bon garçon.
Juste une question sur, parce que c'est un côté image Panini, donc c'est ce que vous êtes en train de nous raconter avec vos cahiers de l'époque, de quand vous étiez plus jeune et enfant même, j'imagine. Vous avez compilé des photographies, des documents. Absolument débordant de la production de western européen, qu'est-ce que ça dit de l'Europe de l'époque ? Qu'est-ce que ça dit des sociétés occidentales de l'époque ?
Alors, bon, vous avez des films qui se tournaient en Espagne. Les films en Espagne ne disaient pas grand-chose parce que c'était des copies plus ou moins pâles des séries B américaines. C'est chez les Italiens où ça a commencé à être intéressant. Et ce qui a commencé à être passionnant, là où les films prenaient, disons, un peu la température de la société italienne, c'est quand ils ont commencé à faire les westerns révolutionnaires, dits western Zapata. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous aviez... c'était des métaphores soit sur les problèmes de l'Italie du Sud, soit sur les problèmes naissants avec les problèmes de terrorisme, parce que l'Italie commençait à plonger dans les années noires avec les années de plomb. Donc tous les problèmes de rapport de propriétaires terriens avec les péones, etc. À la fois, vous pouviez avoir la lecture sur le tiers-monde et l'Amérique latine, et en même temps, les problèmes de l'Italie du Sud. Et beaucoup d'Italiens m'ont dit, nous, on s'est... souvent identifié au personnage de héros mexicain.
Jean-François Gilles, on fait une courte pause parce que nous avons un petit peu une petite pause à faire, hein, et on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. Il était une fois le western européen de Jean-François Giret et le documentaire Django, Trinita et les autres dans le cadre du festival Lumière.
Radio Lumière. Lumière, allume la radio.
Radio Lumière en direct du festival Lumière ici à l'Institut Lumière dans l'antre du cinéma français mondial, avec un plateau très 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 chargé aujourd'hui avec des invités prestigieux. On a parlé il y a quelques instants avec Jean-François Giret de son livre Il était une fois le western européen, et nous allons recevoir dans quelques instants Christian Carion. Oratica nous fera l'honneur d'être parmi nous également. Félix Moati, Jean-François Stévenin, Laurent Gérard viendra pousser un peu la chantonnette avec nous. Il est local du coin, c'est un natif de Lyon. Et puis Michel Simon également. Ils vont tous venir avec nous sur ce plateau pour parler cinéma, logique. Parmi les acteurs et les réalisateurs que nous attendons, eh bien, il y a Keanu Reeves et Christopher Kenley pour la diffusion d'un documentaire qui aura lieu, qui sera diffusé ce soir. Non, c'est samedi soir d'ailleurs, c'est demain soir. Messieurs,
demain soir, on est vendredi.
On est vendredi, donc ce sera samedi. Exactement. C'est samedi la diffusion du documentaire. Antoine Cyr, vous aviez un...
Oui, je voulais rebondir, si je puis dire, sur Laurent Gérard.
Ouais.
Parce que, alors, d'abord, Laurent Gérard n'est pas lyonnais, tout à fait. Il est bressan.
Oui, c'est vrai.
Comme notre ami.
On dînait à Lyon parce que c'est voilà.
Ici.
Vous êtes un peu cousins d'ailleurs.
Voilà. Mais nous sommes un peu cousins puisque sa tante et la mienne, par alliance, sont frères.
Vous faites des imitations aussi, Jean-Jacques ?
Pas du tout. Moi,
alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire sur Laurent Gérard.
Il est né à Meseria, dans l'Ain, non loin d'ici.
Oui, c'est ça.
C'est qu'il y avait un lien avec le western. Parce que Laurent Gérard a été le scénariste
de plusieurs Lucky Luke.
Bien sûr, bien sûr.
Ouais. C'est un passionné de western. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un lien aussi entre Lucky Luke et le western. Vous savez, par exemple, que le personnage de Fil de Fer. Enfin, d'abord, si Lucky Luke existe, c'est parce que le western existe.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les auteurs de Lucky Luke, c'est des gens qui étaient nourris complètement par le western.
Ouais.
Et donc, par exemple, le personnage de Fil de Fer qu'on voit dans Lucky Luke en 54, eh bien, c'est une copie du personnage de Jack Palance dans L'Homme des Vallées Perdues, qui est sorti 2 ans plus tôt, en 1952. Donc la passion, Gérard, le western, etc., tout ça va assez bien ensemble. Et Gérard est allé jusqu'à exiger que l'un de ses Lucky Luke soit traduit en parler bressan. Il existe un Lucky Luke, donc un western, en parler bressan, grâce à Laurent Gérard. Je voulais quand même, au moment où on parlait du western, je voulais quand même souligner ce cousinage.
On va pouvoir revenir là-dessus,
voilà,
avec lui, voilà, tout à l'heure,
oui,
lorsqu'il sera parmi nos invités, évidemment.
Tout à fait.
Je crois que les flashs crépitent. Il me semble que, mesdames, messieurs, Keanu Reeves vient de s'asseoir en face de moi. Il est avec nous. Je vous demande de l'applaudir, ça va être difficile parce que sinon vous allez laisser tomber les appareils photo, mais on va quand même faire un petit effort. Il n'est pas venu tout seul, il est avec Christopher Kenley, qui est le réalisateur de ce fameux film que vous allez pouvoir voir demain, pas demain, samedi, donc je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire demain, dans le cadre du Festival Lumière 2014. Keanu Reeves, bienvenue, bonjour, bonsoir, merci de nous rejoindre sur Radio Lumière, en direct avec nous. Ça va ?
Ah oui, ça va, merci, merci.
Vous parlez un petit peu français ?
Non. Malheureusement.
Eh bien, je vous présente Marie-Noëlle Dana, qui va se charger de faire la traduction simultanée. Pour vous expliquer un petit peu, parce que nous, on parle un peu vite et on parle un peu trop français pour vous, donc on va vous épargner un petit peu.
I'll be here to translate for both of you.
Keanu Reeves, avant de commencer, moi j'ai découvert juste, ça, je vais faire une petite parenthèse personnelle, si ça vous dérange pas, parce que comme après, je sais que vous allez me prendre la parole. Vous êtes un passionné de hockey sur glace, comme moi. Vous êtes. Pourquoi vous n'avez pas fait carrière dans le hockey sur glace?
You're a fan of ice hockey. How come you didn't choose that path? Just a quick. It's a little. You know. Quick note.
When I was a young person, I loved sport.
Mm-hmm.
And as I got older, I guess my introduction to drama was obviously movies and television, but also Shakespeare. And so I started to have a curiosity about performers. And as I got older, even in school, you know, putting on plays, doing, you know, playing Mercutio in English class. And just somehow I was attracted to this dream of acting and to tell stories.
Is
and so I had a decision. Des sports or this? And... Yeah. And I just had this revelation that I wanted to go that way.
Marie-Noëlle?
Oui, c'est vrai qu'il aimait beaucoup le hockey sur glace, mais qu'à l'école, il a découvert ce qu'on appelle drama en anglais, donc les cours de théâtre. Et que très vite, il s'est rendu compte, en même temps qu'il découvrait les films, mais il s'est rendu compte qu'il découvrait aussi Shakespeare et toute la partie anglaise littéraire de ses cours. Et il s'est rendu compte qu'il aimait trop les histoires et qu'il adorait les personnages. Et puis il a joué Mercutio dans Shakespeare. Et puis voilà, à un moment, il a fallu faire un choix. Et il s'est dit le sport, le théâtre. Et il a décidé de raconter des histoires.
Et c'est grâce au hockey sur glace qu'il a commencé un petit peu à jouer des petits rôles dans les séries, d'ailleurs, au départ. Yves Bongarçon, Jean-Jacques Bernard, Antoine Cyr, Marie-Noëlle Dana.
Oh oui.
Alors, une question, la première qui a trait directement au film de Keanu Reeves qu'il vient présenter ici, qui est donc un documentaire qui traite du passage de l'image
analogique
à l'image numérique. On est étonné que ce soit un acteur qui se pose cette question. Après tout, un acteur, c'est ce qui change le moins dans le passage. Il y avait des acteurs devant les caméras de jadis, il y a des acteurs encore aujourd'hui. Pourquoi c'est un acteur qui s'interroge sur ce passage, sur cette transformation?
A question about your film Side by Side, which you produced and Christopher Kenley directed.
Je comprends.
Oh, vous avez compris, super.
Oui,
all right.
Oui. For me, I grew up acting in front of film. You know, I've been acting since probably 1983, and this is how I grew up. It was film was the movies that I watched, and there came a point in 2011 where I felt like film was going away, was being replaced by the digital camera, and that what I do and how I watch movies, that tradition, 100 years of photochemical film, would become dead, obsolete. And I wanted to document this moment, this evolution or revolution. And I was fortunate enough to be working with Chris, who had made a documentary before, and shared this question, this passion of where are we today and where are we going? What are we losing? What are we gaining? And it really came from me personally, from my life, you know, in terms of my involvement with cinema and how it was changing.
Keanu Reeves a eu la chance de commencer dans le cinéma en tant qu'acteur, effectivement, mais au fur et à mesure de sa carrière, il s'est rendu compte que le médium lui-même qui le faisait travailler, dans lequel il était impliqué, changeait de manière très rapide, et il s'est rendu compte que ce qui faisait son métier était en train de basculer, de transitionner, et que peut-être même ça allait mourir. Il avait la chance, il s'est beaucoup intéressé à cette question-là, et il avait la chance de connaître Chris Kinelli, Christopher Kinelli, et I'm mispronouncing your name, I'm so sorry.
That's the French pronunciation.
It's the French pronunciation. I'm going to work on the American pronunciation. Et du coup, Christopher s'intéressait lui aussi beaucoup à ces questions-là, et ils ont décidé de suivre et de voir comment tout ça était en train de changer.
And I think maybe being an actor is the best position to speak about this. You know, I don't have the prejudice of a cinematographer. You know, I don't have a particular projection of how I want to tell the story like a director. You know, I can have that view, you know, with Chris as the director. I can go to each person, each artist, and propose this question of, like, how did you used to do what you do, and how do you do it now? It's such an actor's a way, you know, to ask questions and to inquire. And so I think for an actor, for this is very appropriate.
Et il trouve aussi que sa position d'acteur est en fait une position privilégiée pour pouvoir poser ce genre de questions, parce qu'il n'a pas de préjugés. Il est acteur, mais il n'est là que pour interpréter la vision d'un réalisateur, et donc il n'a pas de parti pris. Il a pu aller voir tous ces différents directeurs de la photo et réalisateurs et producteurs, et poser la question avec toute l'ouverture possible, et avec la possibilité de regarder tout ça avec un grand angle avec Christopher.
Et puis c'est un acteur qui a beaucoup joué lui-même sur des fonds verts, dans Matrix notamment.
And you're also one of the first actors who has acted a lot in front of those new green screens with new technologies.
Yes.
Je ne traduis pas.
Quelle est la vie du réalisateur, justement? Quelle est la position du réalisateur par rapport au passage de l'analogique au numérique?
What is your point of view? How do you feel about this whole transition, Kinelli. Christopher Kinelli?
Sure. In the documentary, we try not to interject our own opinion, but let these, you know, great, amazing people who we interviewed give their opinions, and kind of let the audience take that information and come up with it themselves. But my personal opinion is I love film. It has an amazing history. It still looks great today, but I think the future is digital, and it's an amazing technology that continues to improve.
Au cours du documentaire, tous les deux ont pris grand soin de ne pas afficher de parti pris et de garder une objectivité pour que ce soit vraiment les personnes qui se servent de ces nouveaux outils qui puissent répondre. Après, de manière plus personnelle, il adore le film, évidemment. Il trouve que c'est magnifique et que c'est quelque chose d'incomparable. Mais il pense que le futur est digital et numérique, et qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se faire dans ce contexte-là.
Ça, c'est une certitude absolue. Jean-Jacques Bernard.
La très grande différence entre les deux, c'est que jadis, avec l'image analogique, nous étions dans une image fossile. Littéralement, on imprimait quelque chose qui restait à jamais sur quelque chose, sur une surface organique. Aujourd'hui, on imprime des chiffres. On imprime
des 1 et des 0.
Des 1 et des 0.
C'est le langage binaire. Yvon Garçon.
There's a very grave, hard question throughout the documentary. And the question is, is this the end of film? And this is the question: is this the end of film? But we listen: is this the end of cinema?
Kinneret?
Yeah, it's not. I don't think it'll be for now. I don't think it's the end of film. I think that there are still many artists, and even young artists that I've met, who are continuing to want to work with film, and I think that interest will gain support, as we saw from Christopher Nolan, who asked to buy film stock, as the film students that I've met, who are asking, how can I shoot 35 millimeter, how can I shoot 16? And I think certain film schools and places, perhaps even here at the Lumiere, this might be a situation that starts to promote, you know, giving students and young filmmakers the opportunity to work with film. In regards to cinema, cinema will never die.
Alors la question est vaste. Ce dont ils se sont rendus compte tous les deux au cours de la préparation et de la fabrication de ce documentaire, c'est que même si le digital prend énormément de place, il y a toujours un immense intérêt de la part des réalisateurs, même ceux qui travaillent en digital, et puis de la part des étudiants, et puis de la part d'un peu tout le monde, de continuer à pouvoir travailler avec le film. Et l'objet lui-même. Et puis il y a Christopher Nolan qui a demandé à acheter énormément de stocks de pellicules pour être sûr qu'il puisse en avoir de côté. Et puis après, d'un point de vue plus personnel, le cinéma ne mourra jamais.
Attendez, je vais la faire parce que c'était le cinéma ne mourra jamais.
Tu fais beaucoup mieux qu'Ian Reeves que moi.
Oui, sur ce genre de truc, je pense que je suis mieux placé. Antoine Cyr.
Mais qu'est-ce que ça change à l'essence du métier de comédien, ce changement?
What does it change in terms of the essence of your job as an actor, for example?
Well, we speak in the documentary about how the rhythm of how you do a scene, when you film a scene with photochemical, you usually had about 9-10 minutes before you had to change the magazine to put more film in. Digital, depending on your format, you know, can go, you know, 20, 30, 40, 50, 120 minutes. So the rhythm has changed. There's a lot. I mean, just I'll just say that. and then maybe on the other side, digitally, how people are watching movies, how they're watching entertainment, how they're watching content, and how that content is being created. You know. Digital is oftentimes cheaper and faster, and there's so many more ways to see stories now.
Pour répondre précisément à la question, le travail de l'acteur, ils en parlent beaucoup dans le documentaire parce que justement, avant, un acteur avait entre 9 et 10 minutes pour pouvoir faire une scène ou travailler un plan. Et puis au bout de 9 minutes, presque un peu moins de 10, il fallait changer le magasin et puis remettre. Donc il y avait une pause, il y avait une pression, et même les acteurs en parlent dans le documentaire et disent que c'était pas du tout le même état d'esprit que maintenant. Maintenant c'est 40 minutes, 50 minutes, et puis de pouvoir recommencer presque ad vitam aeternam avec beaucoup moins de pression financière. Il y a Greta Gerwig dans le documentaire qui raconte que quand elle, la première fois qu'elle a entendu les bobines tournées, elle a eu une pression épouvantable parce qu'elle s'est dit oh, mais là une minute coûte très très cher, et c'est pas du tout le même état d'esprit. Et après Keanu Reeves pense que sur le plan du spectateur aussi il y a autre chose, il se passe il y a un autre contenu et une grosse générosité de contenu.
But I will add something personal, and it's maybe not, it's probably not true, but for me sometimes when I think about it, when I get emotional, I always felt sometimes that when I was working with film, that there was this idea of death in the room, that there was this idea that it was finite and that it was actually capturing something that was alive, but that there's this idea of death in it somehow, that, you know, and somehow with a digital camera and in that experience, it feels like it doesn't have memory, you know? That it doesn't understand that. that it's there's a it's neutral, that it doesn't have any emotion, you know. But you can still bring this to the day and to your performance, but it feels like it has this objectivity. It doesn't care. But that's just when I, you know.
Et après, d'un point de vue plus personnel et presque almost metaphysical, d'un point de vue presque métaphysique, Keanu Reeves dit que quand il joue avec la bobine qui tourne, il a toujours l'impression qu'il y a presque une question de vie ou de mort, et que quand la lumière, quand la pellicule capture la lumière, elle est en train non seulement de capturer une image et une action, mais aussi l'émotion qui va avec, et d'une certaine manière de l'imprimer pour l'éternité, de manière infinie, mais de manière presque morbide. C'est une petite mort à chaque fois, et donc voilà.
But there is a lot about, in the documentary, there is a lot about light and emotion and how on film you're capturing the reflection of an object and the reflection of a person, and it changes everything.
That's true of a digital sensor as well. I mean, it's still just capturing protons.
It might be that, you know, a piece of film, you're actually walking away with something tactile that you can hold in your hand, and there's an image on that piece of film, where on a digital camera, it's just a series of numbers that represent an image, and there is that difference.
Very Matrix-like. C'est vrai qu'il y a cette histoire de d'émotion et de la lumière qui est capturée par, enfin, qui capture les objets et l'émotion de l'objet. Mais après, dans le digital aussi, Christopher Kinnelly le dit, il y a la même chose. C'est peut-être que juste il n'y a pas l'objet physique, et il n'y a pas cette impression de repartir avec des images.
And maybe, Chris, maybe you can speak about this too. Isn't there even a way that a photochemical image is projected and a digital image is projected, even if it's like interlacing, or if there's in a way that there's a difference even in how that illusion of motion is created? You know, that there's something different about how a 24 frames projected and then a digital image projected, in terms of either, you know, it's vertical to horizontal, or to how it's coming toward you, might actually have a different kind of effect on the physiology in terms of our how we see something in our brain, maybe.
Yeah, I think Walter Murch, one of the people we interviewed, spoke about that. You know, when you're watching something on film being projected, you're seeing frames of black every once in a while, but your eye does not capture that. But maybe something that adds to sort of that dreamlike state that you're in while you're watching something that's actually on film.
Ok, l'échange qui vient d'avoir lieu est très compliqué à traduire, mais je vais faire de mon mieux.
Donc, entre Keanu Reeves et Christopher Kinney.
C'est technical land. Il y a quelque chose de très technique dans le documentaire, mais en même temps, c'est super accessible, donc c'est vraiment intéressant.
C'est formidable.
On apprend plein de choses dans ce documentaire. I'm saying that there's a lot to learn in this documentary because everything, it's very technical, but you just learn so much about the making of it.
C'est très didactique.
Keanu Reeves a demandé à Christopher d'expliquer peut-être comment le cerveau enregistre différemment la manière dont le film projette, quand la pellicule est projetée sur l'écran, comment le fait que ce soit projeté de manière verticale et puis qu'il y ait des cadres et puis 24 images par seconde, et ce que c'est la différence physiologique par rapport à l'émotion comparée au numérique. J'ai pas tout saisi, mais voilà, c'est difficile pour moi deux.
C'est-à-dire
que Christopher dit qu'il y a des cadres noirs en fait, et que peut-être l'émotion, l'état dans lequel on est quand on regarde un film, une bobine, enfin un film projeté, et ben il y a des cadres noirs qui passent, mais que on ne voit pas, mais le cerveau les perçoit d'une certaine manière, et donc peut-être que ça ajoute à la magie de l'état dans lequel on est.
On peut appeler ça les images subliminales, après.
Absolument, il y a une palpitation du vivant dans le cinéma, et il y a quelque chose de très lisse et un continuum totalement lisse dans les images aujourd'hui de synthèse.
Vous avez décidé de me challenger aussi. There's a palpitation of the living matter when it is projected on film. That's what Jean-Jacques Bernard.
Exactly.
And it's different from the sort of polished motif of the digital. The palpitation of the living matter.
Yes.
C'est bon, pour la merci traduction, beaucoup. Ça sera merci simple. Side by Side, un documentaire de Christopher Kinley sur le passage de l'argentique au numérique qui va être diffusé samedi 18 octobre à 19h45 à l'Institut des Lumières, dans la première salle, ici même, où nous nous trouvons en direct. Side by Side, que je vous encourage à aller voir. Kinley Reeves, merci beaucoup.
Merci à tous, merci.
Merci pour ces quelques minutes. Christopher Kinley, merci également.
Thank you so much.
Très très bon séjour à Lyon. Profitez bien de la France, que j'espère vous aimer un petit peu. Et vous êtes bien sûr les bienvenus la prochaine fois que vous êtes de passage. Merci. À très bientôt.
You are welcome. The next time you come to Lyon, we'll be happy to have you on Radio Lumière. Thank you very much for your time.
Thank you. Thank you. Voilà un grand moment de radio et de cinéma qu'on vient de vivre en ce moment en direct sur Radio Lumière et sur Lyon Première 90.2. Radio Lumière en direct du Festival Lumière, ici même à l'Institut Lumière où est né le cinéma. On continue bien sûr notre programme qui va être très très riche, qui continue jusqu'à 20h dans cette émission et nous sommes en direct. Et après Keanu Reeves et Christopher Kinley, eh bien nous attendons encore Christian Carion, Horatica, Félix Moati, Jean-François Stevenin, Laurent Gérard. J'ai vu passer Laurent d'ailleurs il y a quelques instants, il me semble qu'il ne doit pas être très très loin. Donc ils vont tous venir nous retrouver dans quelques instants. On va faire une toute petite photo. Vous voulez bien me remplacer une petite seconde pendant que je fais la photo de Keanu Reeves, messieurs ?
Non, on va dire à quel point, avec Marie-Noël, à quel point ce documentaire est saisissant, extrêmement didactique.
Oui, il est passionnant et puis surtout, il est très intéressant parce que justement, comme le disaient tous les deux nos invités, il ne prend pas parti et il propose une vraie vision intéressante sur les avantages et les inconvénients de chacun de chacune de ces techniques. Puis il y a plein d'anecdotes, il y a un nombre incroyable de réalisateurs et de grands, grands directeurs de la photo. Il y a David Lynch, il y a Scorsese, il y a Cameron, il y a Lucas, il y a Fincher, Rodriguez, Nolan, Schumacher, Lars von Trier, Richard Linklater, Danny Boyle et j'en passe, qui répondent aux questions et qui avancent et qui essayent de démêler le fil de cette grande transition.
Avec une question très intéressante à la fin. Je suis désolé, Marie-Noël.
Oh, vous m'avez coupé, votre majesté.
Je vous coupe un peu parce que Laurent Gérard est en train de s'installer. C'est la question du storage, de la conservation des images qui est posée, puisqu'on ne sait pas ce que va devenir l'image numérique.
Ben alors, c'est tout à fait simple. En un mot, aujourd'hui, beaucoup de cinéastes tournent en numérique. Peut-être la plupart des cinéastes tournent en numérique. Mais tous ceux qui savent le prix du temps font doubler le numérique en argentique. Et on recopie le film qui a été tourné en numérique sur de l'argentique. Parce que l'argentique, on sait qu'au moins, au minimum, sa durée est de 100 ans. On le sait, on l'a mesuré depuis les films de lumière qui sont encore vivants aujourd'hui, qu'on peut voir ici à l'Institut ou ailleurs. On sait qu'au moins, on a 100 ans de garde. Hein, comment ? Exactement, un vinyle, on pourra toujours l'écouter. Et c'est Laurent Gérard qui nous le dit.
Voilà. Laurent Gérard qui vient de nous rejoindre.
Un vinyle, on pourra toujours l'écouter.
Exactement.
Alors qu'on sait pas.
Alors que personne ne sait quelle machine pourra lire le numérique d'aujourd'hui dans 50 ans. Exactement. Personne ne sait.
Mais en revanche, il y a quelque chose. J'en parle avec Claude Lelouch, qui a employé une caméra récente. Je suis désolé,
Il n'y a pas de souci.
Dis donc, mais alors ça doit coûter beaucoup moins cher. Il me dit pas du tout.
Oui.
En fait, ils font beaucoup plus de prises, ce qui permet de faire beaucoup plus de multiplier les prises. Mais c'est vrai, c'est le vinyle du.
Parce que ça a été dit d'ailleurs par Keanu Reeves tout à l'heure. Quand tu entends la caméra tourner, cette palpitation dont on parlait, tu sais que chaque mètre de caméra, il te coûte quelque chose. Il a un prix. Or, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur.
Alors justement, mon cher Jean-Jacques, est-ce que ça peut changer justement l'économie, on va dire, d'un metteur en scène qui se dit, attends, cette prise, faut pas que je la rate. C'est un petit peu comme je pensais les photos. Maintenant, quand on fait des photos.
On
fait 50 photos. Si on a une, on a l'air con, on l'enlève. Alors que les photos, on a l'air con, sont vachement sympas.
Absolument.
Quand on les retrouve 20 ans après.
Elles sont souvent les meilleures et bien plus pleines d'informations.
Exactement, c'est ça. Ouais, pardon, du coup, je suis désolé.
Non, mais c'est très très bien.
Mais j'écoutais tout à l'heure le débat et c'est passionnant.
Marie-Noël.
Dans le documentaire, il y a un moment, James Cameron explique. Quand on parle de la conservation des bobines, il explique qu'au moment de Titanic, le film était tellement projeté partout, pendant tellement longtemps, un tel nombre de fois, que les films
on se sont réduits en poussière, c'est-à-dire que les bobines, la pellicule a commencé à s'effriter en poussière dans toutes les salles de cinéma. Et quand il raconte ça, il y a quand même une espèce de voilà, je sais pas, c'était un petit moment joli dans le documentaire qui m'a plu.
On réutilisait le nitrate d'argent, non, si je ne m'abuse, pour ils tournaient par exemple beaucoup de westerns à Hollywood et ils réutilisaient les pellicules pour faire d'autres choses.
On refondait les pellicules pour en faire de nouvelles. Bah oui, bien sûr, pour des histoires d'économie, notamment pendant la guerre, ça s'est beaucoup fait.
Donc t'imagines le nombre de
destruction de chefs-d'œuvre.
le film se termine, le documentaire de Kennelly et Reeves se termine sur le problème de la conservation des images, et il se clôt quasiment sur George Lucas, à qui on pose la question de la conservation des images. Il y a l'œil qui frise. Quand on connaît George Lucas, l'œil qui frise, ça veut dire quelque chose. Il dit, je suis convaincu que dans quelques années on aura trouvé un problème à la résolution du problème de la conservation des images numériques. Voilà, ça se termine là-dessus.
Ouais, c'est vrai, mais déjà il faudrait qu'on trouve un problème pour le format définitif. C'est loin d'être joué, ça, encore, hein. Jean-François Giré nous a rejoint avec son livre sur les westerns européens. Comme je sais que Laurent Gérard aime les westerns.
Ah bah oui.
Ah bon,
mais
plus que ça, oui. Même encore.
Je sais qu'il ne faut pas déranger M. Girard lorsqu'il regarde un film, un western. Il ne faut pas que le téléphone sonne chez lui.
Absolument.
Il faut pas oublier que Laurent Gérard est scénariste de western.
En plus,
oui. Parce que Lucky Luke, c'est quand même le plus grand western européen.
On va en parler, je voudrais juste...
jamais quand je regarde un western à la
télévision. Alors justement, je peux vous dire quelque chose, c'est que j'avais eu cette conversation avec Giraud, le dessinateur de Blueberry, qui disait pourquoi on aime le western, parce que l'Ouest est fait d'Européens.
Mais eh ben oui.
C'est vrai, mais c'est
donc
vrai.
Ça nous touche.
C'est normal. Donc on est chez nous.
Ouais. Désolé.
Bienvenue. Parce que vous n'êtes pas venu tout seul. Laurent Gérard, vous êtes venu avec Jean-François Giré, qui est à vos côtés. Et il y a également Félix Moiti.
Bonjour.
Un tout jeune.
Ah, tout. Enfin, oui. À côté de Laurent Gérard, c'est sûr.
Merci.
Faites attention, hein.
Fumier.
Je crois qu'il a une bonne. Faites gaffe, je crois qu'il a une bonne droite. Vous êtes justement à sa droite, donc ça risque de poser problème.
Droite chez Moati, je suis pas sûr.
Non. Là, il y aurait un problème familial. Ça, c'est sûr.
Félix Moati, qu'est-ce que vous faites ici?
Ah bah, je sais pas, comme tous les invités, je crois d'ailleurs. Je me pose la question, c'est la troisième fois que je viens et à chaque fois, je me sens comme un escroc, mais je vais venir regarder des films et approfondir ma cinéphilie. J'ai entendu qu'il y avait Michel Simon qui était à côté, par exemple. Je vais aller le saluer, je suis très heureux de rencontrer.
Et il va venir là tout à l'heure, il va rejoindre Michel Simon, voilà. Si vous voulez attendre un petit peu, il va pas tarder directement à nous rejoindre.
J'ai grandi vraiment avec ses articles, voilà.
Bon, bah c'est parfait. Et vous alors, donc, vous allez voir des films?
Ah
vous
oui,
allez
oui, je vais essayer d'aller. Je sais que demain il y a la masterclass de Pedro Almodovar, donc je vais y aller avec plaisir. Il y a des films à voir que je connais pas du tout aussi, donc très heureux.
Bon, voilà. Très bien. Laurent Gérard, on parle d'un petit peu western.
Ah bah oui, je vais présenter ce soir et pour quelques dollars de plus.
Voilà. Eh ben justement, moi j'ai envie que Antoine Cyr nous fasse une toute petite présentation à ce sujet.
Et ben moi je vais pas vous parler de western justement.
Oh bah
parce
alors.
Que non mais parce que il y a un point, il y a Bertrand Tavernier qui est un fanat de western est en train de s'engager dans la défense du cinéma français des années 50.
Ce qui est formidable d'ailleurs.
Et Laurent Gérard
c'est qu'il y a des chefs-d'œuvre qu'on peut retrouver.
Non,
j'arrête.
Laurent Gérard présente aussi dans ce festival un film extraordinaire de cette période, qui est Le Désordre et la Nuit
de Gilles Grangier.
Alors juste, c'est un film dans lequel on a Gabin, Darieux, la belle autrichienne Nadia Tiller. On est en 58, Gabin a 54 ans, il joue un flic qui tombe amoureux de la petite amie d'un malfrat, et leurs relations sont quand même particulièrement corsées. C'est un film assez transgressif où par exemple le père Gabin va se prendre des gifles inattendues qu'il va un peu tarder à rendre. Écoutez.
Bien. J'ai 23 ans, des yeux noirs, la forme de visage ovale. Je ne suis plus vierge, mais mon casier judiciaire l'est encore. Tu sauras les débuts en regardant mon passeport. Et les restes en me prenant dans tes bras. C'est tout simple, non?
Est-ce que tu sais ce que tu veux?
Oui. Justement. Tu sais que tu n'as pas l'air commode, hein?
Alors commence pas ça, hein?
Pourquoi? Tu t'apprêtes? C'est vrai? Tu t'apprêtes?
C'est long. Je t'avais prévenu, hein?
Alors ce qui était étonnant hier quand on n'a pas présenté le film, avant-hier pardon, c'est je pose toujours la question de savoir, la salle était pleine, et je pose toujours la question de savoir qui l'avait vu. Il y avait 4 personnes qui l'avaient vu sur
personne de la salle.
Ouais. Le désordre et la nuit, enfin, Grangier, Audiard, et de voir la salle, une salle de cinéma. La copie est magnifique parce que c'est une copie restaurée, on voit tout, on voit le grain de la peau, on voit la sueur, on voit tout. Mais de voir une salle rire au dialogue d'Audiard, ça fait vraiment plaisir. Surtout que, puisqu'on parlait de la nouvelle vague, j'ai dit en le présentant que dans le fameux Audiard par Audiard qui est édité chez René Château,
bien sûr,
à propos de la nouvelle vague, Michel Audiard dit on va s'apercevoir qu'elle est beaucoup plus vague que nouvelle. Et, et c'est vrai que ce sont des cinéastes qui ont été dénigrés par ces gens-là.
Grangier, oui, il était.
Grangier, la Patelière.
Il était appelé l'assistant perpétuel par Truffaut.
Oui. Mais même la Patelière est morte dans une indifférence un peu presque scandaleuse.
Et ben, ça fait plaisir de réhabiliter. Et c'est aussi ça, je voudrais vraiment saluer le travail de l'Institut Lumière, de Thierry Frémaux, etc., qui réhabilite et de voir des films dans des belles salles de cinéma. Et ben ça fait plaisir.
Voilà, un cinéma qui faisait le plaisir des spectateurs et l'instrumentation critique, parfois très ironique, effectivement. Hein, il y a eu des choses assez dégueulasses écrites par les critiques dans les années 50 contre Grangier.
C'est affreux. Mais bon, ouais.
Bon, voilà. Allez, c'était un autre temps. Je l'ai dit, sur le western.
Alors que sur le western, pareil. Oui.
Sur Sergio Leone, c'est pareil. Ah, voilà, oui. Les anathèmes pleuvaient à tour de bras. Hein. Moi, j'ai vu des critiques de pour une poignée de dollars dans lequel on dit c'est pas possible, il y a un seul américain dans ce film, c'est inadmissible, oui, c'est un faux western. Oui, oui. Je veux dire, les gars ils disaient simplement c'est des faux westerns, il n'y avait pas d'argumentation.
Tout à fait. Ça a duré quand même un moment cette affaire-là.
Cela dit, il faut quand même rappeler, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, que le western est une construction mythique, y compris le western américain. Par rapport à la réalité de la vie américaine, le western est déjà une légende qui a été imprimée par les Américains, puis reprise par des Européens. Mmh. Et puis très souvent, mieux servie par des Européens que par des Américains eux-mêmes. Et puis par un sous-genre, si j'ose dire, en présence même
non
de Jean-François
Giraud. Non, parce que Django a tué Gary Cooper aux portes de Thèbes.
Exactement, ouais. Portes
mais
de
par Thèbes. Exemple, Salvation, là, que j'ai vu récemment, c'est pas mal du tout. Hein.
Bien.
Salvation est très bien.
C'est très très bien, parce que, c'est, encore une fois, ce sont des Européens qui...
Salvation est un western danois.
Oui, danois.
Entre parenthèses, tout Hollywood est européen. Puisque ce sont souvent des gens d'Europe centrale qui sont partis là-bas construire un monde totalement neuf qui s'appelait l'Amérique, mais qui n'était pas vécu comme tel en Amérique, qui était vécu comme tel seulement sur les écrans américains.
Alors j'ai vécu un moment, je peux le dire, exceptionnel cette semaine avec Anne Leni, qui est une spécialiste du western. Incroyable, qui connaît même
c'est vrai qu'elle ressemble un peu à John Wayne.
C'est incroyable, mais de pouvoir parler. Et en fait, le western peut vraiment être un genre féminin. Et quand j'avais présenté il y a 3-4 ans, d'ailleurs, on était ici, la ville abandonnée de William Wellman, j'avais dit allez-y, les filles, c'est un western de gonzesse. Ah
oui. Félix Bonatti, vous avez demandé à voir le livre de Jean-François Giraud, Il était une fois le western européen. Et j'imagine que vous êtes un grand fan.
J'ai eu très peu de temps
pour
le feuilleter.
Du western.
Moi, je connais assez mal, je dois dire, mais j'adore certains films de Sam Peckinpah, Sergio Leone et tout ça. Mais je me demandais qu'est-ce qui peut rentrer dans la catégorie western, par exemple. Ramène-nous la tête de film
d'Alfredo Garcia.
Voilà, oui. D'Alfredo Garcia.
C'est une sorte de western contemporain.
C'est ça,
c'est une violence sur les indomptés.
Voilà.
Il fait partie du western européen.
Ah oui, avec un Kirk Douglas formidable.
Il faut que tu vois ça.
Ah ouais, Seuls sont les indomptés. Formidable qui va ressortir très très bientôt dans les salles à réussir. Je le dis en préparant.
Grâce à notre ami Alain Carador, il est ressorti aussi.
Oui. Mesdames, messieurs, je vais vous demander simplement de faire une petite pause parce que la radio, vous savez, c'est un petit peu rythmé. On est obligé un petit peu de rendre l'antenne de temps en temps pour des petits moments un petit peu privilégiés. Et on se retrouve juste après. Laurent Gérard, Félix Monati, Jean-François Giraud. Et voilà, Jean-François Giraud va nous quitter parce que bien sûr, il est attendu.
Oh bah alors,
on se retrouve
dans
quelques instants.
Entendu.
Il était avec nous tout à l'heure, Laurent. Il est resté un bon moment avec nous. On a parlé de son livre déjà, on l'a présenté sur l'antenne. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. On fait une petite pause. On se retrouve juste après, messieurs.
Lumière, allume la radio.
En direct du village du Festival Lumière, à l'Institut Lumière, ici même, pour ce Festival Lumière 2014, un festival de cinéma pour tous où, pendant les pauses, il se passe des tas de trucs. J'ai entendu Antoine Cyr et Laurent Gérard chanter. Il paraît que c'était pas la première fois d'ailleurs que vous chantiez en chœur.
On a
attendu.
Fini tard une fois.
Au moment du festival du film sportif, c'était à l'Institut Lumière.
Absolument, c'était déjà à l'Institut.
Quel genre de chanson vous
chantez? C'est le seul institut qu'on fréquente.
Oui, pas mal. En tout cas, c'est une bonne maladie, ça fait du bien, on s'est bien marré.
Un institut de bonté.
Voilà, non, mais c'est formidable parce que de se retrouver là, et c'est vrai qu'on avait parlé évidemment de Jean-Yann, puisqu'on vient d'entendre la chanson, mais il y a quelques raretés. D'ailleurs, on devrait connaître un peu mieux le répertoire de Jean-Yann.
C'est vrai, c'est vrai.
Mon cher Albert, tu fais pour moi des choses aphrodisiaques. Tout nu dans la cuisine, tu me lis du Mauriac. Lorsque j'entends ces mots, je l'avoue, ça m'excite. Mon cher Albert. Et la fin, c'est quand même, lorsque tu viens m'aimer, garde donc ta soutane.
Excellentissime. Souhaitons la bienvenue à Christian Carion qui vient de nous rejoindre et qui s'est assis à côté de moi.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous chantez des chansons paillardes, vous aussi, Christian?
Mais c'est pas paillard. À la radio.
Vous ne savez pas ce que vous perdez. Bienvenue en tous les cas. Vous êtes ici au Festival Lumière. Racontez-nous un petit peu votre venue au Festival Lumière.
Ben, moi, je viens en voisin d'abord, parce que j'habite à Caluire-et-Cuire, donc sur la colline.
Ça vous fait pas très loin, c'est vrai.
Caluire-et-Cuire.
Caluire-et-Cuire.
Oui.
Vous verrez, c'est une ville à côté de Lyon qui est très sympathique.
Il n'y a que des mecs en cuir. Hein,
oui, voilà. Non, avant, il y avait Caluire et puis Cuire. Voilà. Et les deux ont fusionné.
Oui, c'était déjà le rapprochement des collectivités territoriales. Voilà.
C'est la raison pour laquelle, lors du premier Festival Lumière, vous avez passé toute la semaine ici à regarder des films et à les présenter.
On appelait ça la Courlie avant.
La Courlie, oui.
La Courlie.
Ah là là. Non, la première édition du festival, en fait, j'avais un gamin qui naissait, donc je n'étais pas là. Et puis je me suis rattrapé depuis et c'est un festival où je viens chaque année avec bonheur, gourmandise.
Et on se retrouve en plus, on s'y retrouve.
Et en plus Laurent, on s'est tout de suite, on s'était déjà rencontré sur une hirondelle à la fête printemps.
Mais on c'est vrai que.
Et on s'est retrouvé à la faveur du festival et depuis on se quitte plus.
Exactement.
Alors moi j'adore tous ces... D'abord j'ai une table, il faut savoir que moi qui suis vraiment pour une parité et un nouveau féminisme positif, je suis cernée par les hommes. Donc entre les chansons paillardes et toute cette testostérone, je suis un peu overboard, mais bon. Moi je me disais... Oui, mais c'est un compliment,
oui,
toute cette testostérone.
Je sais pas.
Moi je voulais savoir, Félix Noati est là en touriste absolu. C'est-à-dire que vous n'avez même pas un film à présenter, c'est vrai, c'est les vacances.
Ah non, mais en fait je n'ai jamais eu de film à présenter, c'est la troisième fois que je viens et je
suis honteux. C'est honteux.
Et alors si vous aviez
un film à présenter,
vous auriez présenté lequel?
Quand je vois les choix des invités, j'ai un peu honte, mais je pense que j'aurais pris la peau douce peut-être de Truffaut, parce que je le regarde en boucle en ce moment, mais tout le monde l'a déjà vu, donc c'est pas très intéressant. Je sais que ça énerve Laurent Gérard.
Laurent Gérard qui en a 4 à présenter, vous pourriez pas lui en donner un?
Mais je sais pas, non.
J'ai présenté le portrait d'une enfant déchue.
Ouais.
Ce qui est très étonnant, je le redis, c'est que peu de gens l'avaient vu, même Portrait d'une enfant déchue. Et je l'ai revu. C'est là, je pense, la puissance et la force d'un cinéaste, c'est d'être dans une salle de cinéma et de, même si on l'a vu le film, on le revoit parce qu'il y a plein de choses qu'on a.
Mais je l'ai vu 30 fois, la peau douce, moi.
Ah oui,
même peut-être plus.
C'est pour ça que t'as des cernes.
Mais elle est devenue un peu rêche, la peau, après. Ouais. Hein,
voilà, c'est ça, elle est plus si douce. Comment?
De moins en moins douce.
Portrait d'une enfant déchue. Et cet après-midi, Paradis perdu d'Abel Gance, où j'ai pleuré. Alors il paraît que ça va te faire plaisir. Truffaut pleurait à ce film.
Ah bon?
Oh ben merde.
Bon, je vais pleurer aussi. Hein.
Alors vous passez de Gilles Grangier à Jerry Schwartzberg, et Alfred Hitchcock, Sergio Leone. Là vous faites des grands écarts.
Oui.
Vous aimez bien.
Je suis souple.
Ah non, il y a un film que j'aimerais bien présenter. Enfin, pardon, je me réveille. Et du coup, parce que je suis un peu intimidé, parce que là, vous parlez tellement de films et
mais
tout
la,
ça. Ouais.
Mais la production, il n'y est pas. Hein.
The House by the River de Fritz Lang.
Ah oui.
Ah, ben là, voilà. C'est un peu démago de ma part, je sais. Mais...
Pendant que vous parlez, j'aimerais souhaiter la bienvenue à quelqu'un qui vient de nous rejoindre, qui s'appelle Gianluca Farinelli. Et ce n'est autre que le patron de la Cinémathèque de Bologne.
Et notre amico.
Mais il parle français, hein. Vous pouvez y aller.
C'est bien d'être ici.
C'est vrai.
Oui.
Merci beaucoup, Gianluca. Vous merci parlez très vous. Bien français.
Non, non, c'est un français limité.
C'est.
Mais on peut accessible. Comprendre. Oui, accessible. Oui.
On peut
essayer production. De comprendre pour le français.
C'est bien, parce qu'on parle du western italien.
Bologne est la plus belle ville d'Italie. Bologne détient un record en Europe, c'est la plus vieille université d'Europe qui a ouvert il y a 900 ans, je crois.
Il y a une magnifique tour immense.
Et il y a une tour immense, tout en briques rouges, extraordinaire. Et il y a une cinémathèque. Bologne et la cinémathèque de Bologne fait un travail absolument considérable de restauration, de conservation, de remise à jour, si j'ose dire, permanente du cinéma. Et c'est cet homme-là qui en est le patron.
Mais vous savez qu'on fête un anniversaire. On fête les 25 ans de Cinema Paradiso cette année.
C'est
et donc, c'est formidable. Voilà, vous êtes là. Je me demandais comment on allait fêter cet anniversaire. Et c'est vraiment bien de le fêter avec vous, parce que c'est un film qui est un extraordinaire hommage au cinéma et à la passion du cinéma.
Et en effet, on est en train de le restaurer. Et on attend la semaine prochaine Giuseppe Tornatore qui vient à Bologne pour suivre l'étalonnage du film.
Bon ben voilà, on est en plein dans l'actualité de la restauration.
Le western italien est largement représenté, principalement d'ailleurs cette année. On en parlait avec Laurent Gérard qui présente et pour quelques devoirs de plus de Sergio Leone. Vous êtes venu dans quel but ici, Gianluca?
Bah je suis venu parce que j'adore l'Institut Lumière et je me suis donné comme ordre de venir chaque année au moins une fois ici. Et donc c'était une nécessité, c'est même le médecin qui me l'a commandé.
Est-ce que je peux rajouter quelque chose? La restauration à Lyon, c'était normal.
C'est ça. Alors, effet.
En même temps, quand on vient de Bologne, c'est bien aussi.
En effet, ce sont mes grands amours. La restauration, c'est mon grand amour. La restauration film, mais pas seulement. Et en effet, donc il y a beaucoup de raisons pour venir à Lyon. Puis le programme est génial. Et le problème, c'est que j'ai beaucoup de gens à rencontrer, donc je risque de rater beaucoup de films. Donc,
oui, mais c'est un problème. On va dire à Thierry Frémaux qu'en fait, il y a trop de films.
Non.
Il y a 340 projections.
340
projections. Moi, je pense que c'est le festival qui devrait durer 3 semaines.
Oui, c'est
et
ça.
En plus, c'est frustrant parce que quand on rentre, du coup, on a envie de revoir les films. On a un besoin, voilà.
Ça. Alors, oui, non, c'est 3 semaines. Je pense que la seule solution, c'est passer ici 3 semaines.
On entend beaucoup de voix d'hommes à cette table, et il y a une femme qui voudrait peut-être intervenir, c'est Marie-Noëlle Dana.
Gianluca Farinelli, c'est beau ce nom, là. Qu'est-ce que vous faites vous travaillez sur des projets communs justement avec d'autres cinémathèques et des endroits comme l'Institut Lumière. Vous dites que vous venez une fois par an à l'Institut Lumière. Alors, qu'est-ce que vous nous préparez de joli, de choses qu'on pourra peut-être voir l'année prochaine?
Oui, en effet, mon travail, c'est beaucoup de travailler avec d'autres institutions. Donc, on a beaucoup de projets. Par exemple, on fait une partie de la restauration de Fir Lumière, par exemple, avec l'Institut Lumière. Et puis...
dans les Crémos.
On a presque terminé... le projet Chaplin, mais quand même on continue à y travailler et on a presque restauré tous les films de Sergio Leone, mais quand même C'era una volta il West c'est encore à restaurer, donc là c'est quelque chose que qu'on voudra bien amener à Lyon. Et puis on a vraiment un peu trop de projets pour s'arrêter seulement sur un. Et puis c'est toujours Thierry qui choisit. Donc, qui choisit quoi amener à Lyon. C'est difficile imaginer qu'est-ce qu'il va choisir de beaucoup de projets sur lesquels on est en train de travailler.
En tout cas, je sais qu'il y a eu à l'Institut Lumière beaucoup de films italiens. Et un de mes films préférés, qui est la plus belle soirée de ma vie... Ouais. C'est toi qui l'as...
Oui, c'est un grand film, c'est un film qui est en Italie, c'est totalement inconnu. Parce que depuis sa sortie, pour des raisons de droits, c'est un film qui a disparu, n'existe pas en DVD, n'existe pas en VHS. Et vu aujourd'hui, c'est très impressionnant parce que ça rassemble, disons, les protagonistes, les personnages joués par Alberto Sordi, ça rassemble beaucoup à un politicien qui en Italie a été jusqu'au hier... Premier ministre qui continue à être un politicien plutôt connu. Ah oui. Mais c'est, tu sais, il commence son prénom avec S et son nom avec B.
Mais c'est surtout le dernier film de Michel Simon et de Pierre Brasseur.
Ouais. Oui, oui, il y a un cast incroyable. Ouais.
Alors,
oui.
Justement, là-dessus, il y a énormément de films italiens dans lesquels jouent des acteurs français. Par exemple, Blier a joué chez Risi, chez Monicelli. Il y a le Fanfaron qui est extraordinaire, etc. Donc il y a tous ces films-là.
Il y a eu des années de coproduction très, très fertiles.
Est-ce que ça mériterait pas un focus, cette amitié franco-italienne dans le cinéma, peut-être des cycles, des festivals?
Oui, je pense que ça, c'est un énorme sujet, parce que ça a duré une trentaine d'années même. Jusqu'au le cinéma italien était grand, il avait une relation exceptionnelle avec la France, et la France était dans toutes les productions, dans tous les films plus importants du cinéma italien. Et en plus, il y a aussi une chose très intéressante pour nous, c'est que souvent il y a des grandes différences entre la version française et la version italienne. Donc aussi cette comparaison qui est très jolie, qui donne aussi ça permet aussi de voir les différences entre les publics italiens, ou ce que les producteurs pensaient du public italien et du public français, et que la censure aussi permettait de montrer. Donc je crois aussi que ça pourrait être un cycle, ou même plusieurs cycles formidables.
Oui, et même ce qui est amusant, par exemple, dans Le Fanfaron, c'est que si vous voyez Le Fanfaron en version italienne, bah, vous avez la voix de Gassman, mais pas la voix de Trintignant. Exact. Et si vous regardez Le Fanfaron en version française, vous avez la voix de Trintignant, mais pas la voix de Gassman.
Il y a des hasards dans les versions.
Pour reconstituer les deux, il faut voir les deux films, quoi.
Gérard Depardieu était un des derniers acteurs qui a fait ce genre de coproduction régulièrement. Hein. Alors, il est allé jouer à
Ferrari. Il y a un film italien qui se passe à Paris, dans lequel il y a très peu d'acteurs français. C'est Parigi sarà sempre Parigi, avec Mastroianni qui arrive à Paris avec des supporters. Je crois qu'il y a aussi Lucia Bose. Oui. Il y a Mastroianni et Lucia Bose qui arrivent à Paris pour soutenir l'équipe de foot d'Italie. Et donc c'est un film italien qui a été tourné à Paris, dans lequel il n'y a pratiquement pas d'acteurs français.
Messieurs, je passe à mener la planche, mais je crois que Laurent Gérard, pardon, est attendu. Oui. Et que malheureusement il va devoir nous
quitter. C'est un bonheur d'être avec vous.
Un petit mot de
parler
fin.
De belles choses et de retrouver Christian avec qui j'ai eu un plaisir immense, puisqu'il m'a fait l'honneur de tourner dans son prochain film. Et voilà, et je suis très très heureux. Je suis très heureux d'être là, déjà parce que je réserve toujours ma semaine pour le Festival Lumière. Merci à Thierry Frémaux, merci à tous.
On va parler.
Je vais présenter et pour quelques heures de plus.
On va parler avec Christian Carion.
Exactement. Dollari in più. C'est toi qui l'as restauré.
Oui.
Laurent, un petit au revoir à la Jean-Luc Godard.
Oui, bien sûr, parce que la différence entre le cinéma et la télévision, c'est qu'au cinéma, on lève les yeux.
Laurent Gérard. C'était notre invité ici en direct. Merci sur le plateau beaucoup. De Radio Lumière. Merci beaucoup, Laurent.
Merci.
À très bientôt. Bonne projection.
Merci.
Bon film et bon festival. Merci. Christian Carion, tiens, si on enchaînait sur ce que vient de dire Laurent, vous l'invitez dans votre prochain film. Racontez-nous tout ça. On a envie d'en savoir plus.
Eh ben, ça fait un moment qu'on se connaît, comme on l'a expliqué. Et puis voilà, j'ai tourné un film cet été qui se passe pendant le mois de mai 1940, pendant l'évacuation. Et j'ai demandé à Laurent d'interpréter un des personnages. Il est fontainier, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'un château d'eau. Ça m'a fait beaucoup rire.
Il s'occupe de quoi ?
Un château d'eau.
Ah bon ?
C'est Tavernier qui disait qu'il y a certains métiers dont on ne parle plus dans les films.
Et voilà, il était temps de parler des fontainiers, car sans eux...
Nous n'aurions pas d'eau.
Nous n'aurions pas d'eau aujourd'hui. Voilà. Donc Laurent s'est occupé de l'eau, ma foi, avec succès.
Pourtant, c'est pas sa spécialité, l'eau.
C'est pas sa spécialité du tout. Il s'est découvert une nouvelle passion aquatique.
Christian, on verra le film quand, vous pourrez.
Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne peux pas profiter en fait du festival, parce que je suis en plein montage ici à Villeurbanne. Et donc, je viens le soir après avoir travaillé la journée pour vous voir et voir des films. Là, je vais présenter César et Rosalie.
Ah. Et, vous avez présenté Le Vieux Fusil hier, c'est ça ?
Le Vieux Fusil lundi, oui. Mardi.
Mardi.
Et puis, hier, c'était La Vie est belle.
Ah oui, d'accord.
Quand même.
Et donc voilà. Pareil, c'est un festival de cinéma pour tous, ça porte bien son nom, puisque...
Non, mais ce que disait Laurent tout à l'heure est très juste, c'est un moment où on peut quelque part réhabiliter des cinémas et des cinéastes qui ont été injustement traités ou oubliés.
Ouais.
Et voilà, ce que j'aime moi beaucoup, c'est qu'avec ce festival, on mesure à quel point le fait que c'est le temps qui fait la différence. Il y a des films qui restent et des films qui restent pas.
Ouais.
Et là, dans ce festival, nous n'avons que des films qui sont restés. C'est oui. Le temps qui a choisi. C'est pas les papiers d'époque.
D'autant plus que la plupart des films, des vieux films qui sont projetés ici, sont restaurés de la plus belle façon.
Ça réconcilie le numérique et la pellicule, ouais. En fait.
Absolument, parce que sans le numérique, c'est vrai qu'on aurait du mal à restaurer les films, ce serait pas possible.
Tout simplement, et donc ça perpétue
la continuité
d'une manière différente, le plaisir de voir.
C'est ça. Merci beaucoup, Christian Carion, pour ces quelques mots. Une petite réaction, Félix Moati. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai rebondi sur le vieux fusil, parce que j'ai adoré le vieux fusil. Ouais, pardon, c'est ça. Mais c'est, du coup, je. Désolé.
Comment? Tu l'as revu?
Je l'ai vu il y a 2 ans, quoi. Voilà. Ouais. Je trouve ça
c'est
génial.
Incroyable.
Je trouve
c'est ça vraiment génial. Un film étonnant.
Ah, c'est étonnant. Vrai, ça, c'est clair.
C'est très très bien.
Très prenant. Moi, la scène du lance-flamme m'avait traumatisé lorsque j'étais ado et que je l'ai vu pour la première fois. C'est vraiment quelque chose
Pas seul.
Ouais. C'est... Non, mais c'est vrai, hein, c'est un traumatisme
Laurent
que j'ai gardé.
Il avait vu une fois et qu'il ne voulait plus le revoir.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais un mal fou et j'ai attendu de nombreuses années pour pouvoir le voir. Deux personnes sont venues nous rejoindre. Michel Simon qui vient de publier un livre qui s'appelle Le cinéma en partage et dont nous allons parler dans quelques instants. Un livre qui n'est pas tout seul puisque j'ai l'impression qu'il est un petit peu rigide. Tiens, il y a un support numérique à l'intérieur et un DVD. On va en parler dans quelques instants. Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Et puis une actrice qui est venue nous rejoindre également. Elle a fait un petit crochet, c'est gentil. Avec son merveilleux sourire, Auratica, bonjour, bienvenue.
Bonjour, prenez merci le micro. De m'accueillir.
C'est très gentil, vous êtes venue là en spectatrice de film.
Oui, en spectatrice de film. Je suis venue manger, bouffer du cinéma.
C'est bien. Vous ne ferez pas d'indigestion, hein, rassurez-vous.
Non,
vous pouvez
non,
y aller
pas.
Sans modération. Il n'y a absolument aucun risque. Parlons de ce livre, Michel Simon. Le cinéma en partage. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que pour moi, pour mon activité d'enseignant, de critique, de journaliste, c'est de faire partager ce que j'aime. Voilà, c'était l'activité de toute ma vie. Faire des conférences, faire des débats, présenter des films, écrire des livres, avec toujours le souci de faire partager. Voilà.
Parmi les invités, quelqu'un nous disait qu'on ne va pas au cinéma tout seul, c'est quelque chose qui se partage justement. On y va à plusieurs.
Voilà, c'est pour ça que je défends beaucoup, ce festival, parce que c'est voir des films en commun, sur grand écran, et c'est pas peut-être l'activité un peu onaniste de la vision sur DVD.
Exactement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce DVD qui est inclus dans le livre? Qu'est-ce que vous nous avez mis dedans?
Ce DVD, c'est un documentaire qui a été fait sur moi, qui est allé un peu dans tous les festivals internationaux. Il a commencé à Berlin. C'est un film fait par une femme, c'est son premier film, Simone Lainé, qui m'a un jour dit « j'ai envie de faire un film sur vous ». Et voilà, et j'ai accepté. Et elle a interviewé beaucoup de gens, Joël Cohen, Atom Egoyan, Wim Wenders, Bertrand Tavernier, Arnaud Desplechin, enfin beaucoup, Quentin Tarantino. Ils ont parlé de leur rapport avec moi, puisque je les ai tous défendus. Donc ils disent du bien, évidemment. Ouais, parce que je les ai défendus.
Moi, s'ils disent du bien, c'est que ça doit être bien. Voilà. Jean-Jacques
et
Bernard.
Puis, et puis, d'autre part, elle a filmé un comité de rédaction de Positif, elle a filmé une visite de la Cinémathèque. Voilà, elle m'a filmé un peu dans mes activités au Festival de Cannes, en train de faire une projection privée avec le futur Palme d'Or, Nuri Bilge Ceylan, qui à l'époque venait de montrer un film.
Voilà, alors, Michel Simon, d'abord, un grand honneur que de le recevoir. Michel Simon, c'est un grand critique, on l'entend masquer la plume régulièrement. C'est un homme qui pratique la rencontre. Il aime les autres, il aime les cinéastes, et sa façon de nous les faire partager, de nous faire partager cet amour, c'est par la rencontre et c'est par l'entretien. Il a fait des entretiens, il continue d'en faire à la radio, mais il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entretiens pour l'écrit. Et c'est peut-être le cœur du travail de Michel Simon, c'est des entretiens extrêmement construits. Parce que dans les livres de cinéma, il y a les biographies. Alors, les grands biographes sont principalement américains et, je dirais même, d'origine écossaise. Ils s'appellent McBride, McGilligan ou McCarthy. Bon, ils sont tous écossais, bon, d'origine. Simon, c'est pas un biographe, ou plutôt, c'est un biographe du cinéma et des œuvres par les cinéastes eux-mêmes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très important. Parce que quelque chose,
passe en plus de toute exégèse, de toute tout spécialisme, c'est une rencontre. Et parfois même une rencontre vigoureuse. Un cinéaste, ça vous résiste, ça tire à U à Dia, on ne sait pas. On sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça va finir un entretien. Eh bien, Michel a passé sa vie à faire des entretiens. Alors, il y a plusieurs livres en vérité qui sortent. Il y a celui que vous avez cité, Le cinéma en partage, mais il y a une renaissance américaine, des entretiens avec 30 cinéastes. Et puis mieux que ça encore, il y a un bouquin qui s'appelle Jane Campion par Jane Campion. Alors, c'est quoi ? Non, c'est pas Jane Campion devant un miroir qui s'interroge elle-même. C'est Jane Campion qui interroge son propre cinéma et le cinéma d'autrui également, par le truchement de Michel Simon. Là, il y a quelque chose à dire en un mot. Chapeau, Michel, et merci infiniment pour ce travail de partageur, alors littéral, par le truchement de la parole des cinéastes.
Je regrette de ne pas avoir un chapeau pour vous saluer, vous tous. Non, mais c'est vrai que les livres que j'ai faits, comme celui sur Jane Campion ou sur Kubrick, ou sur Stanley Kubrick ou sur John Boorman, c'est des livres au long cours, c'est-à-dire c'est des gens que j'ai rencontrés en général, enfin pas Kubrick au début, mais Jane Campion par exemple, je l'ai interviewée en 1986 sur ses courts-métrages, elle n'avait jamais fait de long-métrage, je l'ai retrouvée 3 ans plus tard sur Sweetie, je l'ai retrouvée quelques années plus tard sur La leçon de piano, à chaque fois qu'elle faisait un film, je l'interviewais, je la rencontrais, je l'ai suivie depuis presque 30 ans, et à la fin, au bout de 30 ans, je lui dis tiens, on pourrait rassembler tout cela, avec mettre beaucoup de photos, des entretiens, des études sur ses films, des documents qu'elle m'a donnés, des nouvelles qu'elle a écrites, etc., pour lui rendre hommage. Mais ce n'est pas des livres qui se font comme ça, où à la dernière minute, un éditeur m'appelle, lui dit « Est-ce que vous ne pourriez pas faire pendant 6 mois un livre sur Jane Campion ?» Non, tous mes livres sont partis d'une fréquentation de ces cinéastes.
On voit Félix Moati qui opine du chef depuis un moment et qui boit les paroles de Michel Simon. Oui.
Ben non, parce qu'en plus, moi j'ai le souvenir que quand j'avais fait mon premier film à 18 ans, mon parent m'avait offert votre livre sur Kubrick en me disant si tu veux faire du cinéma, il faut que tu connaisses le cinéma. Et donc, voilà.
Qu'est-ce que vous en pensez, Euratica, de tout ça ? Si tu veux faire du cinéma, il faut que tu connaisses le cinéma.
Oui, je ne sais pas en tant qu'acteur, je ne sais pas, mais je pense qu'il faut aimer profondément le cinéma. Et c'est bien de se nourrir parce qu'on se renouvelle. Et que, c'est juste la vie, c'est plus fort que la vie, mais c'est la vie.
Marie-Noëlle Dana ?
Alors, justement, on vous retrouve régulièrement au Festival Lumière. C'est vrai que vous faites le bonheur de passer. Bah, vous êtes passé nous voir l'année dernière, c'était très joli. Et là, cette année, qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Vous avez présenté, vous allez présenter. Qu'est-ce que vous faites à part manger du cinéma ?
À part manger du cinéma, je vais humblement présenter Opening Night de Cassavetes de samedi soir, parce que c'est un film que j'ai réalisé quelques courts-métrages et qui m'a beaucoup inspiré pour la lumière et le son pour mon troisième court-métrage. On peut en parler longuement de Opening Night, mais c'est
les acteurs adorent Cassavetes, oui, par nature.
Les acteurs adorent, et là comme c'est vraiment du théâtre filmé, mais à moitié dans les coulisses, à moitié de la scène, etc. Et il y avait un rapport à la lumière et au son que j'ai adoré, comment le son est utilisé dans ce film. Et puis aussi parce que Cassavetes, évidemment. Quand on sort d'un film de Cassavetes, on a envie de rire plus fort, de faire l'amour, de manger, de vivre encore plus fort et plus passionnément. Donc, voilà.
Il faut dire pour ceux qui ne peuvent pas regarder les images qui sont projetées sur le site en même temps qu'on fait ce plateau, que voir Michel Simon parler de cinéma et Félix Moati et Oratica avoir les yeux qui juste pétillent de partout. Félix, il a des sourires comme ça permanents, et puis elle a les yeux qui partent plein de rêveries et tout. Vrai. Et c'est hyper agréable de voir cette nouvelle génération de gens du cinéma qui aiment tellement et qui est tellement pleine de rêves et de joie et de bonheur et tout. C'est hyper joli.
Mais c'est vrai que j'ai du son là.
Oui, allez-y.
C'est vrai que depuis 2 jours, l'idée de venir ici, je jubile depuis ce matin, depuis que je suis arrivée. Il y a quelque chose. C'est juste du cinéma, quoi. C'est un bonheur de cinéphile ici, ce festival.
Michel, Simon, rencontre avec Cassavetes ?
Ah oui, bien sûr, j'ai rencontré Cassavetes plusieurs fois. J'étais au jury à Venise quand on lui a donné la Lion d'Or pour Gloria, qu'il a partagé avec Atlantic City de Louis Malle. Il n'est pas venu parce qu'il tournait à ce moment-là, mais Louis Malle était très fier de partager un film. C'est pas fréquent que les metteurs en scène sont fiers de partager un prix. Louis Malle était très touché. Et je l'ai rencontré, j'ai fait plusieurs entretiens avec lui, qui se retrouve d'ailleurs dans un autre livre qui s'appelait Passeport pour Hollywood, qui s'appelait Petite planète cinématographique. Et Cassavetes, récemment j'ai fait une émission qui va passer samedi prochain sur France Culture, projection privée, avec Xavier Dolan. Et Xavier Dolan était très heureux parce que enfin quelqu'un ne le comparait pas à Almodovar. Il disait, mais moi je n'ai rien à voir avec Almodovar, à part qu'on est gays tous les deux, on n'a rien en commun. Et par contre, il était très heureux que je lui dise, votre père spirituel c'est Cassavetes, parce que Mommy c'est un film cassavetien. Voilà, il était content que je ne le range pas avec Wong Kar-wai. Il était exaspéré qu'on fasse tout le temps ces comparaisons qui n'ont rien à voir avec son cinéma.
Et vous, Félix Cassavetes,
moi j'adore, parce que à chaque fois que depuis que j'ai découvert les films de Cassavetes, j'ai un peu plus envie d'aimer mon amoureuse. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui enseigne à aimer et ce que c'est que le mystère de la féminité aussi, quoi. C'est le seul à savoir le capter comme ça, je trouve, avec tellement de d'hystérie joyeuse. Donc moi je suis totalement fanatique. Un meurtre d'un bookmaker chinois, c'est l'homme qui aimait les femmes en film noir, quoi.
Et c'est génial. Cassavetes, ce qu'il a en commun avec Dolan, c'est que ce sont des acteurs tous les deux. Et on sent qu'il adore les acteurs. C'est-à-dire que lui-même est un grand acteur. Ouais. Et sa passion pour les comédiens, et pour sa femme en particulier, évidemment, Gina Roland, c'est éclatant.
Ça se voit à chaque plan de ses films. C'est même l'objet même de ses films. L'objet même de ses films, oui. C'est l'admiration qu'on peut avoir pour, en l'occurrence, son épouse, actrice comme lui.
Ouais. Ouais. Mesdames, messieurs, nous sommes dans un discours passionnant, évidemment. Je vous propose de faire une toute petite pause et on se retrouve tous ensemble juste après pour continuer notre conversation. Ce sera très intéressant. Nous sommes en direct du Festival Lumière 2014 sur Radio Lumière. À tout de suite.
Et Félix s'en va. Au revoir, Félix.
Ah, Félix Moati, merci beaucoup.
Comme on dit poliment. Je suis désolé.
C'est très gentil. On a salué également Christian Carion qui nous a quitté parce qu'il présente un film. Merci beaucoup, Félix Moati, pour votre visite en tous les cas. À très très bientôt et bon festival. Pause dans Radio Lumière ce soir. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes au Festival Lumière 2014 en direct de l'Institut Lumière dans l'antre du cinéma à sa naissance même. Vient de nous rejoindre Jean-François Stévenin que je vous demande d'applaudir et d'accueillir s'il vous plaît, bonsoir.
Oui, merci à vous.
Ah, ça c'est un accueil sympa ça. Hein,
oh là, c'est sympa.
Vous êtes là pour la masterclass de Michael Cimino?
Ah oui, pas pour ça, c'est des cadeaux. C'est le Thierry Frémaux, il fait des cadeaux. Moi là je devais projeter mes films, mais on ne les a pas retrouvés parce que ça sera l'an prochain.
Oui, d'accord.
Peut-être.
D'accord.
Donc là je viens quasiment comme ça, gratos, pour rien. On est accueillis, la gare, le machin, le passage, la bouffe extraordinaire, des voitures qui vous attendent de partout. Et alors là, c'était, oui, je suis un peu ému parce que je suis tombé direct en arrivant du train sur le Michael Cimino.
Ouais.
Et puis ce soir, il y avait la masterclass qu'il a faite.
Alors, une petite réaction, c'est un bonheur.
Oui, quand c'est des films, là, j'ai l'air de dire ça, c'est un peu léger, forcément, mais quand c'est des films qui ont... Je lui ai dit, d'ailleurs, à midi, ça, quand on a parlé un petit peu, lui, c'est des films qui vous changent la vie.
Ouais.
Il m'a dit, non, j'aime pas les compliments. J'ai dit, mais je ne veux pas de compliments, moi. Je vous parle de faits précis. À un moment, il y a avant, The Hunter, et après. Et la vie est plus pareille, parce qu'il y a des embranchements... Parce qu'on est marqué par le film. Donc c'est pas, oh c'est super, et à quand le prochain? Donc, et puis là, il vient de faire une masterclass pendant d'une simplicité totale, avec des questions où il explique qu'il faut creuser, il faut y aller, il faut y croire. Il dit, moi des fois, très souvent, il y a zéro. Je reste 12 heures assis sur une chaise, il y a un putain de scénario, il ne se passe rien. Zéro. Des fois, il y a une page, des fois, il y a deux, des fois, il y a trois, quatre, cinq. Rarissime. On essaye tout, l'alcool, la dope, tout. Ce qui compte, c'est qu'il faut continuer à creuser. Simple. Alors quelqu'un lui dit, comment vous faites avec vos acteurs et tout ça? L'autre, il dit, bah, moi j'ai appris à jouer. Il faut apprendre à jouer. Moi j'étais voir le Lee Strasberg, j'étais toute la journée, c'était très simple, il y avait ci, ça. Il dit, un truc simple, vous traversez la pièce là, comme ça devant un public. Selon le personnage que vous faites, la démarche, rien, il n'y a pas de texte, simplement vous traversez. En fait, il disait un nombre de choses comme ça qui ont l'air très très banales, mais quand on voit le Lascar et ce qu'il a fait et la fureur qu'il a, il dit, oh, ça fait 20 ans que j'essaie d'écrire un truc, mais là j'y arrive pas, quoi. Bon, c'est pas gâcher la soirée.
Non, vous me plombez, ne vous inquiétez pas.
J'ai remarqué qu'à Cannes c'est des leçons de cinéma et à Lyon c'est des masterclass, c'est-à-dire qu'on passe Thierry Frémaux américanise son discours dans cette belle ville de Lyon. Vous avez remarqué?
Oui, c'est vrai.
C'est une leçon de cinéma, la masterclass.
Mais il y a les leçons de cinéma également.
On peut dire leçon de cinéma, on peut dire leçon de cinéma. Oui. Parlons français.
C'est vrai. Mais il y a les leçons de cinéma aussi, hein, qui fonctionnent à Lyon. On en parle d'ailleurs tout au long de la journée.
Je pense que c'est un peu volontaire, c'est pour ne pas faire l'amalgame avec Cannes, je pense. Que...
Ah bon. Il y a des chances. Il y a des chances.
Tiens, si je peux me permettre, je rajoute un truc. Moi, j'ai plus rien.
Non, c'est pas ça.
Moi, j'ai trouvé un film sur lequel je pouvais intervenir, c'était Johnny Guitar.
Oui, bah justement, là, samedi à 20h30.
Voilà. Et là, parce que j'ai une histoire assez fabuleuse avec Nicolas Rey, avec lequel j'ai vécu 2 mois sur la fin de sa vie, quand Wim Wenders tournait avec lui à New York. Et après, une belle histoire aussi avec Sterling Eden de rencontre. Donc j'ai dit, ça, je peux peut-être le faire pour régaler le public de la future projection de Johnny Guitar, leur raconter des trucs un peu vécus, quoi.
Absolument, c'est vrai, c'est bien.
Sterling Hayden, c'était quand même un personnage, c'est un personnage mythique, quoi. Maintenant que je sais que vous avez passé 2 mois avec lui, je vous regarde encore différemment. Je vous regardais déjà d'une certaine manière.
Moi, c'était avec Nicolas Rey que j'ai passé 2 mois.
Attention, c'est ambigu.
Mais le
Sterling Hayden,
Antoine, calme-toi.
Vite fait. Je me retrouve par hasard de la vie, ça serait trop long à raconter, à un festival de Telluride, Colorado, dans un truc ultra snob et tellement chic que personne n'a le droit d'y aller. Il y a Godard qui envoie un petit mot, c'est raréfié comme atmosphère. Et moi, j'allais assez mal à l'époque, et assez mal d'être là. Pour rien. Donc j'étais avec une fille qui était attachée de presse qui me dit si, on a rendez-vous demain matin avec De Niro et Scorsese au Sheridan Hotel, dans le backstage du Sheridan, à 9h du matin pour se prendre un petit déj. Mais comme on s'était engueulé toute la nuit, bon, je vous passe les détails de ma vie personnelle. Merci pour ce moment. Et d'un seul coup, arrivé là on s'est engueulé toute la nuit, pas dormi, moi une grosse cuite, enfin bon, bref. Et je trouve rien de mieux pour faire le malin que je marche pieds nus, elle, super américaine, pamponnée, machin, tout ça, très bien, très professionnelle. Et moi, je pars avec un kimono de karaté noir et pieds nus. J'ai honte de raconter, mais enfin, c'est comme ça, quoi. Et on arrive devant la porte du Sheridan, je lui dis, non, j'y vais pas. Il me dit, comment, tu te rends pas compte, quoi? Mais je lui dis, attends, je vais aller voir... De Niro qui va me dire hey, how you doing? Moi je lui dis oh it's very nice. Moi, je lui dis j'en ai rien à foutre, c'est des stars qu'elles restent dans les étoiles, je vais pas aller faire semblant de prendre un petit déj avec un mec qui en a rien à foutre. Donc je vais me balader dans les bois et me défouler, ça va. Alors je vais dans les bois me défouler, tout ça, pieds nus, karaté, je fais des mawashi dans les arbres et tout. D'un seul coup il y a des arbres qui se mettent à bouger, un buisson, et là je reviens sur terre, quoi. Je me dis, mais putain, là, ce coin s'appelle Point of No Return. C'est-à-dire, il n'y a plus rien après. Je me dis, si ça tombe, il y a des ours. Il y a peut-être un ours qui va débouler. Je suis comme un con pieds nus, quoi. Le bosquet s'ouvre, et là, il y a Sterling Hayden.
1m97.
Avec un grand manteau, sa canne en argent, qui était le président du festival, qui me dit, oh, how are you, young man? That's a very good day. Oh yes, wonderful. Et il disparaît. Bon.
Quelle belle histoire. Hey. On a envie d'applaudir.
Ah, dis donc, hey, c'est vrai.
Et maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi Antoine Cyr disait qu'il le regardait avec un autre œil. Voilà.
Alors, je regarde quand même aussi avec un autre œil au Radica.
Il veut clore avec les ambiguïtés. Voilà. Hein, j'ai l'impression que.
Voilà.
Je suis allé sur son compte Twitter parce que ça fait longtemps que je la suis sur Twitter.
Vous adorez Twitter.
Et j'adore Twitter. Et elle parle avec un. D'abord, c'est quelqu'un qui est très engagé, très authentique et très sincère sur son compte Twitter, et ça j'aime beaucoup.
Ah bon?
Je trouve que vous dites de temps en temps, alors pas tout le temps, mais de temps en temps vous dites vraiment des trucs, quoi, des choses que vous ressentez. Et le film dans lequel vous avez récemment tourné, qui est Papa Was Not a Rolling Stone, vous en parlez avec vraiment un enthousiasme extraordinaire.
Mais oui, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé jouer dedans, j'y crois beaucoup. Il est sorti la semaine dernière et il a un petit peu de mal à exister parce qu'il y a Mommy et Gone Girl qui sont sortis, qui ont un petit peu
rafler la mise. Donc c'est difficile pour un premier film de Sylvie Wayon d'exister aujourd'hui. Donc c'est vrai que j'ai envie de le soutenir. Et comme en plus les gens qui l'ont vu l'aiment et l'apprécient énormément, voilà, j'ai envie d'en parler. Et pour qu'il y ait du bouche-à-oreille, il faut qu'il y ait des bouches. Donc,
C'est un film qui parle de la banlieue au féminin. C'est un film qui montre, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ou qui ont été à l'école en banlieue qui trouvent que la façon dont on en parle n'est pas la bonne, ou en tout cas n'est pas la seule bonne, et c'est un film qui en parle autrement.
C'est un film qui parle de la banlieue avec positivisme et tendresse. C'est un peu la Boom version swag. C'est un petit peu, oui, ça parle de la banlieue, mais pas que le côté racaille. Ça parle de ça, c'est une histoire positive. C'est une jeune femme, c'est ma fille, enfin, c'est l'histoire de ma fille qui grandit en banlieue et qui s'en sort grâce aux études, à la lecture et à la danse, voilà, qui arrive à passer de l'autre côté du périph grâce à ça, et ça se passe en 87. Il y a beaucoup de musique, il y a Jean-Jacques Goldman, beaucoup, et voilà, c'est un film heureux, très tendre, très drôle et assez émouvant.
Marie-Noël.
Oui, c'est aussi un film dans lequel il y a Doria Achour, qui est une toute jeune
qui joue ma fille,
actrice,
oui.
Qui joue votre fille et qui est absolument délicieuse. Et c'est très, très joli.
Oui, il y a Doria Achour, il y a Soumaï, il y a Marc Lavoine. Ouais, c'est un très joli film.
C'était hier soir la diffusion du dernier épisode des Hommes de l'Ombre sur France 2. Paraît-il que c'était formidable. On m'a dit que c'était extraordinaire. Vous avez des retours.
Je ne vais pas vous dire le contraire.
Non, mais
j'ai plein de bons retours, oui.
Vous êtes
en tout cas, tout le monde attend la saison 3. Donc,
vous êtes en plein dans l'actualité. On parle de vous partout en ce moment.
Bon,
ça foisonne.
Oui, vous savez, c'est des moments. Et puis après, on disparaît. Et puis voilà, c'est ça le cinéma, non? On est là, on n'est plus là. Bon.
C'est agréable
à
vivre.
C'est pas ça qui est important, c'est de durer et puis de faire des beaux films.
D'accord, très bien. Vous avez commencé à l'âge de 9 ans, je crois, donc ça va, ça dure un peu quand même.
Oui, j'avais fait un tout petit bout dans L'Adolescente de Jeanne Moreau.
C'est
j'étais
ça.
Mauvaise comme un cochon. Et
voilà. 9 ans, on peut vous pardonner. Messieurs, vous êtes tous sans voix devant Jean-François Stelma qui nous a raconté des histoires absolument incroyables.
Parfois, le cinéma est en partage, mais le silence aussi. C'est le silence d'admiration.
Je veux bien accompagner Antoine chez Jean-François Stelma, en fait. Cet homme-là a des choses intéressantes à nous raconter.
Moi, je voudrais que Michel Simon me raconte des histoires le soir avant de m'endormir.
Oh là là.
Oui, je pourrais avoir du Cassavetes et puis du Scorsese et puis, je vois, des entretiens de Michel Simon avec les plus grands réalisateurs racontés par Michel Simon. Juste pour s'endormir, comme ça serait bien.
Tiens, vous êtes prêts, c'est jusqu'à 5 heures du matin. On peut...
Attends, bah,
il faut lire ce bouquin, en tout cas.
Hein. J'en ai une petite à propos de Michel Simon.
Vas-y, Jean-François.
Oui. Mais c'est pratiquement celui qui m'a fait naître. Parce que moi, à l'époque, j'avais fait un petit film, Passe-Montagne, mon premier film.
Ouais.
Formidable. Michel Simon le voit. C'est le premier qu'il vit. Il sort de la projection, tout rouge, en sueur. Je me dis, oh là là. Bon, c'est pas, hein. Personne n'a vu le film. Et il me chope au coin du bar, tu sais, c'était dans la rue là-haut. Et il a l'air très ému par le film. Il est très ému par le film. Ok, tout va bien. Bon, moi, je suis plutôt content. Après, j'ai reçu tellement de sauts de... Là, c'est... Et après, on se retrouve au Festival de La Rochelle. C'est donc il y a un... Et le même Michel Simon est là et me dit « Oh, je vais présenter ton film à John Borman. » Alors, pour moi, c'était un dieu. John Borman, Délivrance. Je me dis, où il est Borman? Je regarde, je m'attendais à voir des mecs comme Nicolas Ray qui font 2 mètres de haut, des bandeaux, des chemises à carreaux, des ricains, quoi, des balèzes. Et je vois, décorateur d'intérieur, le John Borman qui est là, anglais. Et Michel me dit, non, mais... Et je lui dis, mais le film n'est pas sous-titré. Il me dit, oh non, je vais lui raconter. Catastrophe. Moi, c'est un film de Jurassien. Les gars, ils parlent comme ça, il n'y a pas de dialogue. Il va le raconter. Je me dis, bon, c'est foutu. Ok, il part avec le John Borman à la projection. Je lui dis, non, la copie est trop jaune, il n'y a pas de son, il y a enfin tout, quoi. Il n'y a pas de sous-titres, tout. Attends, ils sont à la projection. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais, moi? Eh ben, je me bourre la gueule en train de me dire, bon, allez, encore un petit, 2-3 petits. Oh là là, ils vont sortir. Je rentre dans la chambre d'hôtel. Je suis vraiment fracassé, j'ai pas envie de me dire. Je rentre, je me réveille 2 heures plus tard et hop, je m'en vais du festival. 8 voitures. Michel me rappelle quelques jours après, un peu masqué, en me disant, j'ai une lettre pour vous de John Borman, puisque vous n'étiez pas là, ça serait bien que vous veniez la chercher chez moi. Donc je me dis, alors là, couvert de honte,
Et là, alors là, la lettre, recto verso, 3 pages et demie, papier en tête de l'hôtel, l'autre il a écrit ça en rentrant, quoi. Le John. Et là, sur la rugosité âpre du son, sur le montage, sur le machin, vraiment un décortiquage du film, vraiment stupéfiant, quoi. Et ça se terminait, je me rappelle que la fin, vraiment. L'autre disait, de toute façon, vous et moi, nous serons toujours, nous aurons le sentiment d'être toujours un peu étrangers sur cette terre qui est pourtant la nôtre. Sincerely yours, John Borman. J'ai plié la lettre en 50 parce que le film n'était pas sorti. Je me suis dit, si je me fais assommer avec le film, moi j'ai ça sur mon cœur, j'ai rien à foutre. Je l'ai tellement bien caché que je l'ai perdu.
C'est souvent ce qui arrive avec les choses qu'on cache trop bien.
Mais tout ça, c'est grâce à Michel.
Jean-François Stévenin.
C'est pas facile de traduire simultanément le dialogue de Stévenin à John. Je lui soufflais dans l'oreille les dialogues du film.
Vous avez réalisé cette performance. Félicitations. Merci beaucoup Jean-François Stévenin pour ces bons moments que vous nous faites vivre avec vos histoires. Michel Simon avec un très très beau bouquin que je vous conseille de voir, Le cinéma en partage, avec un DVD inclus, avec un joli documentaire. Merci beaucoup d'avoir fait l'honneur de votre visite ici.
Merci.
Auratica, merci. J'espère que ça va continuer à fourmiller dans votre actualité comme c'est le cas en ce moment.
Et bah, puis, Inch'Allah, oui, merci.
Et puis bonne présentation de Johnny Guitar. Alors ce sera demain, samedi.
Non, Opening Night. Johnny Guitar, c'est pas moi.
C'est Jean-François Stévenin, pardon. Opening Night, ce sera donc au
samedi
CNP.
Soir.
Voilà, c'est ça. Samedi soir à 20h45. Merci beaucoup, Yvon Garçon.
Ah bah avec plaisir.
Antoine Cyr.
Avec plaisir aussi.
Jean-Jacques Bernard.
Je serai présent demain.
Exactement. Alors demain, ce sera pour la remise du prix Lumière en direct de la Halle, Tony Garnier.
Un certain Almodovar.
Non. En direct de la salle Renzo Piano.
Merci beaucoup, Yvon Garçon. Vous êtes très bien informé et vous avez bien fait de me reprendre. Merci beaucoup à Marie-Noëlle Dana pour toutes vos traductions simultanées tout à l'heure de Keanu Reeves. C'était pas facile, j'imagine, parce qu'il parle longtemps. Donc, quand on part du début à la fin de la réponse, il faut arriver à raccrocher les wagons. Et vous êtes très très bien sorti.
Je suis très forte en wagon. C'est mon truc, les wagons.
Parfait. Merci à Thierry Defay d'avoir réalisé cette émission qui était diffusée en direct et en vidéo grâce aux équipes de Global. Je fais un petit coucou d'ailleurs à la caméra. Un petit bisou à la caméra comme ça pour les équipes de Global et pour tous ceux qui nous regardent en ce moment.
Et une petite pensée juste comme ça pour le film de Cazavès qui va passer bientôt et qui s'appelle Opening Night avec la Gina Roland. Et qui nous a tous tellement amenés dans les.
Eh ben c'est justement le film qu'Auratica va présenter, effectivement. Voilà, c'est le film qu'elle va présenter samedi soir.
Oh, vous m'avez
foutu
le trac, là.
Non, ça va bien se passer, vous inquiétez pas.
Je peux signaler tout de même demain à 14h15, Mado, que je dois présenter, de Claude Sautet. C'est un film absolument extraordinaire. Un film moins connu que d'autres de Sautet, mais où il y a une vision de la France de cette époque, de la crise, des gens qui sont dans la boue, embourbé et tout ça, c'est absolument extraordinaire.
Merci beaucoup Michel Simon. Un petit clin d'œil également à tous ceux qui font leur réaction en direct sur Twitter, puisqu'on parlait des followers, 14 000 followers pour Auratica. J'espère qu'on en aura autant pour hashtag Lumière 2014 ou encore @radiolumière. Et merci à Flora d'avoir veillé au grain pendant toutes ces émissions. C'est Louis Hamelin qui présentera l'émission de samedi soir entre 18h et 20h ici en direct du Festival Lumière. J'étais ravi de passer ces quelques jours en votre compagnie. On se retrouve demain, Jean-Jacques Bernard, donc pour la remise du prix Lumière. Merci à tous, très très bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.